midi 1. On s'ennuie de vous en fin de semaine. L'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102 avec Jeff Fortin, Pascal CV. 418-971-1021 pour nous joindre comme à l'habitude. Également blvd.fm pour nous écouter sur la web radio. L'essentiel des meilleurs moments de cette émission va se retrouver également sur le blvd.fm. Notre application BLVD 101 est disponible sur App Store et Android. Et également twitch.tv/blvd/fm. Ça nous fait un énorme plaisir d'être avec vous ce midi. Pascal CV qui a la broue dans le toupette parce qu'on essaye de trouver quelqu'un pour nous parler de la mère qui a été non criminellement responsable. On parle de cette mère de famille qui avait abandonné sa fillette. Premièrement, Pascal, comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi aussi? Mais
ça
c'est
va
vrai, là.
Super bien, mais c'est vrai que t'as la broue dans le toupette. Non, non, ça le cachera pas, t'as la broue dans le toupette.
Mais c'est mes moments préférés, ça, dans le métier qu'on fait. C'est
oui.
Quand il arrive quelque chose de dernière minute, quand on veut comprendre un phénomène, puis là, les experts sont un peu sa gâchette avec nous autres. Je pense que ça, c'est la qualité du métier de la radio.
Exactement. L'adrénaline que ça amène, c'est très, 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 très plaisant. Passez une belle fin de semaine d'entraînement pour le Kilimanjaro?
Oui, je suis dans mes dernières heures à pousser la machine au fond. Je dois commencer à mettre ça de moitié
cette
semaine.
Oui, c'est du repos après. C'est ce que Joanie m'expliquait tantôt.
La semaine prochaine, c'est du repos, c'est des marches, c'est des... bon, je peux aller au gym. En fait, je vais aller au gym quand même. Ça va être du petit poids, là.
Parfait.
Rien d'intense.
Mardi prochain, Joanie va venir nous voir midi 30. Avec toi, on va faire le tour du Kilimanjaro.
Extraordinaire.
Avant de passer au Caucus Yakarini, Pascal, justement, résume-nous cette nouvelle de dernière heure qui est sortie, c'est-à-dire la mère qui est reconnue non criminellement responsable.
Oui, je vais y aller avec de dernière minute même. Donc, dans le dossier de la fillette abandonnée, effectivement, sa mère vient d'être reconnue non criminellement responsable. C'est cette fillette-là qui avait été retrouvée, rappelez-vous, en bordure de l'autoroute après 3 jours d'intenses recherches. Il y avait des gens qui avaient peu d'espoir. Puis finalement, on l'avait retrouvée un peu sale, un peu, mais somme toute en forme, somme toute en bonne santé. Elle avait été prise en charge tout de suite. L'histoire était super nébuleuse. Cette femme-là qui était arrivée dans un genre de dépanneur-ish, j'ai perdu ma fille, je ne la trouve plus, j'ai pas mon cellulaire.
Ouais.
Finalement, des vidéos qui étaient sorties de la mère qui semblait être en total, malheureusement, débalancement, détresse là, avec sa petite dans les mains, puis qui avait posté ça sur ses réseaux sociaux, elle semblait faire des menaces à quelqu'un. Bon, vous êtes situé avec l'histoire, c'est dans celle-ci qu'on est ce matin. La Montréalaise qui a abandonné sa fillette de 3 ans, eh bien, elle a 34 ans et selon un rapport psychiatrique, elle souffrait d'un épisode de manie mixte avec symptômes psychotiques au moment des tristes événements. Donc, ce qu'on dit, c'est que ça l'empêchait de distinguer le bien et le mal. Et elle a été reconnue non criminellement responsable de négligence criminelle causant des lésions et d'abandon d'enfants à l'accord des parties. Là, en ce moment, ça fait que le juge Bertrand Saint-Arnaud a souligné ce matin au palais de justice du côté de Salaberry de Valleyfield que quiconque qui prend connaissance là, de toute la preuve puis du rapport psychiatrique très complet, très exhaustif, peut-être que convaincu qu'il s'agit du bon verdict à prendre. Alors, tu sais, je sais que ça va faire réagir, c'est très émotif,
c'est sensible. Ça fait toujours réagir.
Mais voilà les propos du juge actuellement. Puis là, la mère a indiqué à une policière, rappelez-vous, qui était sur les lieux, qui n'avait pas dormi de la nuit. Quand sa fille s'est levée, elle a commencé à préparer le déjeuner, elle chantait, elle dansait. Puis soudain, c'est là, elle a eu la peur de quelque chose, paniqué, puis elle est partie avec la petite, le chien, en auto. On va en parler un peu plus tard dans le bulletin de nouvelles, mais ça vient de tomber.
Merci beaucoup, Pascal. On va également parler dans le bulletin de nouvelles de Dominique Laroche, cet ex-skieur acrobatique, ex-vedette à Québec, qui va demeurer incarcéré. À la météo, c'est 20 degrés, les amis, 23 degrés ensoleillés. Au maximum, et c'est du soleil pour toute la semaine avec des 25 et des 26 degrés. On a une superbe semaine!
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Yaccarini.
Antonine Yaccarini, passe un beau week-end.
Très beau week-end.
Ouais, excellent. Parfait, parfait. C'est toujours le fun, les week-ends. Moi, j'ai passé ça full football le samedi parce que j'ai annoncé les Titans du Cégep Limoilou. C'est ma 16e saison en tant qu'annonceur maison des Titans. Ils ont gagné 36-10. Je vais contre les champions du Bol d'Or et je leur avais dit, savez-vous quoi? Je suis votre porte-bonheur, on va gagner.
C'est ça, il va devenir superstitieux. Là. Il va falloir que tu sois toujours présent.
Donc, ton fils a commencé à coacher
et
aussi.
Mon fils également, samedi soir, je suis allé le voir coacher ses petits Benjamins. C'était extraordinaire de le voir aller bientôt 18 ans pour Elliot, en train d'entraîner ses Benjamins, leur expliquer comment le football fonctionne.
Oh. Ah, t'as des étoiles dans les yeux.
Ah, écoute, j'ai eu des étoiles dans les yeux toute la soirée. J'en reviens pas à quel point il m'impressionne, à quel point c'est un bon garçon. Je suis très, 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 très fier de lui. Fait que j'ai passé la journée, dans le fond, au terrain Gérard Chiquette qui est situé juste en face du Cégep Limoilou Campus Charlebourg, également du Patro Charlebourg. J'ai été là de midi à 8h, donc pour de l'excellent football et... Moses, que je suis fier de mon beau Elliot.
Oh, cute.
Ouais, exactement. Bon, on entre dans le politique et avec l'entrée à la Chambre des communes, est-ce que Pierre Poilievre va être fier de Mark Carney?
Fier de Mark Carney, je sais pas. Je sais pas s'il va être fier. Pas facile hein, pour Pierre Poilievre la rentrée parce non. que, ben, on pourrait dire que c'est facile dans le sens qu'il est toujours chef du Parti conservateur, son leadership n'est pas remis en question ouvertement. Il a été élu dans la circonscription albertaine là, très, très facilement pour refaire son retour à la Chambre des communes. Mais le problème pour Pierre Poilievre, c'est qu'il se fait beaucoup manger son lunch. Par Mark Carney.
Ah okay. Oui, Mark regarde les promesses électorales de Pierre Poilievre puis il dit tiens, je vais piger là,
ça?
là.
Ah, regarde, c'est une belle sandwich, je vais manger. Ah, tiens, je vais prendre ton petit jeu aussi. Donc, il ne reste plus grand-chose. Il n'y a pas un énorme terrain de jeu sur lequel jouer en ce moment, Pierre Poilievre. Je préfère la longue liste de ce qui a été repris, qui faisait partie des engagements des conservateurs, taxes carbone, baisse d'impôts, et même des thématiques très, très conservatrices comme les hydrocarbures, les grands projets, mettre en question les lois environnementales, encore cette semaine, on parlait qu'on allait probablement agir sur les libérations conditionnelles, thématique de la sécurité, de la justice, la loi et l'ordre, qui est vraiment très, très cher aux conservateurs. Donc, il ne reste plus grand-chose pour Pierre Poilievre. Et l'autre élément avec Pierre Poilievre, c'est qu'il y a comme une difficulté aussi de positionnement. Parce que l'année passée, il était premier dans les sondages. On dirait que la voie pour devenir premier ministre était toute dégagée. Et là, il se retrouve encore dans son rôle d'opposition. Et là, face à quelqu'un que c'est un petit peu plus difficile de trouver des critiques que Justin Trudeau, je pense qu'il doit beaucoup s'ennuyer de Justin Trudeau, Pierre Poilievre.
Il n'y en a pas beaucoup qui s'ennuient, mais lui, oui.
Et là, cet été, il y a quelques jours, semaines, l'annonce du Bureau des grands projets qui va être en Alberta. Tu sais, on fait plaisir à l'Alberta. Toutes les affaires que les conservateurs ne peuvent pas beaucoup critiquer. Puis Pierre Poilievre avait décidé de vraiment attaquer assez fort à ce moment-là à l'ouverture du Bureau des grands projets en disant « c'est trop long, c'est de la poudre aux yeux, c'est du spectacle, les libéraux vont pas assez vite. » Puis ça avait quand même soulevé des critiques parce qu'on se disait « ben là, qu'est-ce que les conservateurs feraient vraiment
de différent? »
Et on a l'impression qu'il a un petit peu ajusté son ton pour la rentrée. Donc, Pierre Poilievre, là, qui dit qu'il va... Ben, en fait, c'est un peu un classique, là, moi, qui ai travaillé dans des oppositions dans ma vie, de dire « on va être constructif, on va faire des propositions, on va pas s'opposer. » Pour s'opposer.
Oui, on l'écoute et on va écouter par la suite également Stephen McKinnon, leader parlementaire pour le Parti libéral du Canada. Vous allez voir, le Parti libéral du Canada emboîte aussi les oppositions là, avec le commentaire de M. McKinnon.
On travaille quand même pour améliorer les choses. Nous allons collaborer, qu'on voit des propositions positives et nous allons nous opposer aux propositions négatives.
Mauvaise journée pour le gouvernement, c'est une bonne journée pour l'opposition. Mais de façon croissante, les Canadiens jugent et estiment que le Parlement doit fonctionner, doit mieux fonctionner. Et le Parlement fonctionne mieux quand les partis collaborent.
Hey Antonine, une mauvaise journée pour le gouvernement, c'est une bonne journée pour l'opposition, mais les Canadiens veulent pas ça. Ils veulent l'unité canadienne face à Donald Trump. C'est essayer d'emboîter l'opposition pas à peu près ça de la part du Parti libéral.
Oui, exactement. Puis on sait bien que l'intérêt des Canadiens passe toujours avant les intérêts du Parti libéral
bien
du Canada.
Bien sûr, voyons ça, donc, c'est un peu clair.
Cela dit, il a un peu raison, Stephen McKinnon, qui est le leader parlementaire du gouvernement, quand il dit que les Canadiens s'attendent à ce que la Chambre des communes fonctionne. Parce que l'année passée, ça n'a pas été une grosse année en termes de productivité
en effet,
dans ce Parlement-là.
Ben, tes prorogations du gouvernement le 6 janvier avec la démission de Justin Trudeau.
Avant ça, blocage, paralysie, rien qui
fonctionnait.
C'est
vrai, à l'automne. Oui. Donc, ça fait pratiquement un an qu'on n'a pas voté de loi, dans le fond. Là.
Absolument. Donc, il y a eu une courte session parlementaire le printemps passé. On a passé quelques lois, dont la loi C5 sur les grands projets d'intérêt national qui a été passée à toute vitesse. Sauf que là, c'est la première vraie session. Par contre, le gouvernement est encore minoritaire. Donc, il va avoir tractation. Ça ne va pas nécessairement toujours avancer comme M. Carney le voudrait. Par contre, je pense qu'il n'y a aucun parti qui a vraiment envie de partir en élection dès maintenant, les Canadiens non plus probablement, même si c'est un petit peu plus chancelant dans les sondages de la lune de miel pour Mark Carney. Et la grande occasion pour les conservateurs et le grand risque pour Mark Carney, ben, ça va être le fameux budget. Parce que là, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu un vrai budget.
En effet.
La dernière fois qu'on a eu un semblant de budget, en fait, c'était une mise à jour économique. Puis finalement, Chrystia Freeland a démissionné la même journée. Puis ça a comme... on n'a pas trop regardé la mise à jour.
C'est ça.
Donc, on s'attend. Il y a un institut qui fait du monitoring sur les annonces et qui estime, là, c'est l'Institut City Hall, estime qu'on va être dans des déficits autour de 100 milliards
de dollars. Ça, par exemple, les conservateurs ne pourront pas appuyer ceci.
Bien, c'est ça. Parce que les conservateurs ont dit on va être constructif, on va appuyer certaines choses. Mais le budget, c'est pas possible.
100 milliards, impossible. Qui va l'appuyer, NPD?
Bien, bon, le NPD sont pas beaucoup. Donc, ce n'est pas un poids très important.
Mais ça peut quand même donner la majorité.
Mais ça peut donner la majorité. Et y a des bonnes chances que ce soit le cas, puisque le NPD n'a pas de chef en ce moment. Aucun intérêt.
Rappelle-moi le nom du chef par intérêt.
Don Davies.
Don Davies, oui, je le connais bien.
Oui. Je connais tous ses accomplissements par cœur.
Raconte-nous sa famille.
Bon, donc on enchaîne sur le prochain sujet. Et ce qui fait qu'il nous reste qui? Le Bloc québécois.
Oui.
OK. Donc, Bloc québécois qui a été un peu, pas accusé, mais disons, ça rendait un peu dubitatif le positionnement du Bloc face au gouvernement l'année passée parce qu'on négociait, on voulait pas faire tomber le gouvernement, on voulait absolument faire passer des projets de loi, notamment sur la gestion de l'offre, aussi sur des mesures pour les aînés. Et tellement que quand Mark Carney est arrivé... M. Blanchet a pris une posture de collaboration aussi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le PQ...
Si tu veux, on va écouter Paul Saint-Pierre Plamondon critiquer le Bloc québécois.
On m'a simplement posé la question, est-ce que le Parti québécois n'aurait pas dû être plus présent? Vous n'avez pas assez intervenu, c'est timide, etc. J'ai rappelé qu'en fait, je suis intervenu plus souvent cette fois-ci que lors de la campagne de 2021, mais qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire si... l'orientation de la campagne et la stratégie appartient entièrement au Bloc, ne correspond pas à ce qu'on pense puis ce qu'on dit au Parti québécois, notamment la décision de commencer la campagne en disant que l'idée d'indépendance est suspendue pour la prochaine année et l'idée qu'on a hâte de collaborer avec Mark Carney et que Mark Carney, donc, va collaborer avec le Québec.
Donc ça, c'était au lendemain des élections. Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'était fait très critique de la stratégie du Bloc québécois et qui, justement, critiquait aussi le fait qu'on avait perdu un nombre de députés. Mais là, écoute bien, ça, c'est Yves-François Blanchette la semaine dernière.
Et je dis et je répète que les choix, les stratégies, le programme du pays à Québec, l'approche référendaire relèvent de la prérogative exclusive du Parti québécois, du chef du Parti québécois, et que je serai en soutien et que nous serons en soutien à vos choix légitimes comme formation politique souverainiste à l'Assemblée nationale du Québec.
Et là, Pascal Paradis avait été là au congrès du Bloc, avait parlé.
Tout va bien.
La famille s'est réunie, tout le monde est heureux. Mais là, si Paul Saint-Pierre Plamondon veut pas que le Bloc appuie Mark Carney et que le Bloc est à la solde du Parti québécois, ça veut dire que le déficit de 100 milliards, on n'appuie pas ça du côté du Bloc québécois.
On verra, mais honnêtement, la marge de manœuvre n'est pas si grande que ça. Parce que c'est sûr que le Bloc, dans un contexte de gouvernement minoritaire, va vouloir aller chercher des gains. C'est difficile de ne pas, j'ai envie de dire, c'est l'appât du gain politique parce que on veut aller chercher certaines choses pour pouvoir mettre sur ta liste d'accomplissement à la fin de la session puis dire on est allé chercher ça. Juste s'opposer, c'est pas un énorme gain non plus pour le Bloc. Mais l'élection pourrait venir plus vite que prévu. Et on verra, pour l'instant, Mark Carney est très populaire. Au Québec, encore très populaire
aussi.
Je sais,
c'est ce que je voyais dans les sondages.
Donc,
c'est peut-être même la province où il est le plus populaire.
Oui, donc...
Je cherche encore pourquoi, mais c'est ça.
Ben écoute...
Il y a un CV.
Il y a un CV, puis les gens, je pense, on dirait
et
que les gens veulent y croire.
Et là, on ne parle pas de Pascal CV. Oh,
on ne parlait pas de Pascal.
C'est humoriste. Pascal, je t'ai vu lever le poing dans les airs tout à l'heure. Et François Blanchette, c'est...
Il me fait toujours rire.
C'est venu te chercher.
Il est très théâtral dans ses prises de parole. Puis encore là, c'est quand il en fait. Je trouve qu'il a été un petit peu absent là, de la scène politique.
Absolument, très absent cet été. En même temps, moi, j'ai toujours tendance à conseiller aux politiciens de ne pas être là tout l'été pendant que les gens veulent être autour du barbecue puis, encore une fois, faire flèche de tout bois
politiquement. Ça, c'était stratégie à toi de dire...
Fais-toi d'oublier un petit peu.
J'ai l'impression que ça pourrait être agressant, sinon.
Ben c'est parce que... Ben, puis là, je trouve de nos jours que l'été, on n'a plus de break politique.
Oh, pas cet été, ça, c'est sûr.
Il n'y en a pas eu de break politique. Non. Mais en même temps, il faut que tu économises tes forces pour les moments qui comptent vraiment. Puis les gens sont fatigués, puis on ne faut pas pleurer personne sur le sort des staffers politiques puis des élus, je le sais. Sauf qu'une campagne électorale, c'est fatigant. Puis c'est pas une campagne électorale qui a si bien été que ça pour le Bloc. Donc, à quelque part, de prendre l'été pour se ressourcer, mais avoir une bonne session
aussi.
Après.
Ouais, c'est ça.
Une bonne rentrée parlementaire.
Pour se déposer aussi. Parmi les gens qui se font pas oublier, là, je change de sujet, c'est Karl Malenfant.
Ouais.
Je sais pas pourquoi on en parle souvent de Karl Malenfant. Attends, fiasco, satellite, 1,1 million. OK, parfait. Et là, Karl Malenfant va passer à la commission Galant aujourd'hui, mais il a donné des entrevues pour la presse. Ça, c'est assez particulier parce que Karl Malenfant, là, il se promène dans pas mal tous les médias, puis il donne son point de vue avant de passer à la commission Galant. Le commissaire, vas-tu le ramasser?
C'est ce qui se passe avec Karl Malenfant, qui est l'architecte de sa clique, de la transition numérique de la SAC, c'est qu'il considère qu'on lui fait porter le chapeau. Hein, il y a comme une espèce d'histoire qui est en train de s'installer où, quand on arrête de j'ai envie de dire, de regarder le petit ce qui brille au soleil, là, c'est-à-dire les ministres en difficulté, ça brille beaucoup au soleil. Mais quand on passe par-dessus ça, ce qu'on commence à remarquer, c'est que, premièrement, on a l'impression que la SAC a caché des choses à des gens. Puis d'ailleurs, quand il y a eu la perquisition, ils se sont battus pour pas que les documents soient donnés. T'sais, on a cette impression d'opacité.
7 millions de pages.
De pages. Ça va être le fun à éplucher et surtout, on risque d'avoir les résultats très bientôt. Et vous sentez ici le sarcasme. et en écoutant, en fait, Karl Malenfant veut se défendre. Donc, il veut défendre sa réputation. Il dit, c'est pas vrai que je vais me faire porter le chapeau. D'ailleurs, il était sorti pour contredire certaines choses que des ministres avaient dit, premier ministre avait dit, etc. En fin de semaine, gros dossier dans la presse, effectivement. C'est très long. Il y a comme 4 articles assez longs à lire, mais on comprend mieux la psychologie et l'approche de cette personne-là. Et ça vient donner des indices supplémentaires de comment le processus aurait pu se passer. Notamment, les files d'attente, là, les gens qui attendaient là, en 2023. C'est pas grave, ça.
Je te fais entendre Paul Arcand, cet effet-là, qui s'est exprimé dans la presse ce matin. Puis je veux entendre ton opinion par la suite.
On se déchire les veines, je le cite, parce que pendant 3 semaines, 1 mois, il y a eu des files d'attente. De toute façon, ajoute-t-il, il y en a toujours eu des files d'attente à la Société d'assurance automobile du Québec. On a eu une implantation difficile, j'en conviens, mais c'était pas la catastrophe ou la fin du monde. Donc, monsieur informatique regarde ça de sa tour d'ivoire, il voit les files d'attente du bon peuple, il y a rien là, c'est pas grave. Vous sentez dans les propos cette espèce d'arrogance, cette espèce de suffisance.
Fait moins 25... Les gens sont au froid, mais c'est pas grave. J'ai toujours eu des files d'attente.
C'est pas grave. Puis toi, tu veux, t'as besoin de ton permis de conduire ou t'as besoin de quelque chose de la SAC pour remiser ta roulotte, mais c'est pas grave.
T'as reçu un billet de contravention parce que ton permis n'était pas payé.
Ils ont le temps, le monde, là, de gérer
ça. C'est
ça,
vous avez pas.
Bon. On comprend des affaires, là. Honnêtement, c'est important, ces entrevues-là. Et bon, évidemment, il veut se défendre. Probablement aussi qu'il y a des choses importante, des pièces, des morceaux de puzzle qu'il doit donner, qu'on doit écouter. Je ne veux pas le décrédibiliser, mais on a quand même cette impression, ça me fait penser à un des premiers témoignages à la commission Galant où est-ce qu'on nous disait que ce n'était pas la fin du monde. Là. Un dépassement de 500 millions, là, ça n'empêche pas la Terre de tourner.
Le gouvernement a 146 milliards le budget. 500 millions, c'est quoi? Il n'y a rien là. Alors qu'on est plein de citoyens à travailler fort pour arriver à la fin du mois. T'sais, c'est ça qui est quand même assez épouvantable. Ça va être toute qu'une confrontation entre le commissaire Galant et Karl Malenfant, parce que Malenfant est déjà frustré de ne pas avoir nommé participant. Et là, si on se fie à ce qui arrive avec son dossier dans la presse, c'est que lui, il va arriver là avec ses grands sabots puis il va dire « Hey, écoutez-moi bien, si j'avais pas été là, ça aurait été encore pire. »
Probablement. Il voulait être participant, Karl Malenfant, parce qu'il voulait vraiment avoir un rôle actif dans la commission, ce qui était vraiment... aucunement justifié. Là. C'est sûr que lui, il se bat parce qu'il sent que le chapeau va être porté. Là. On essaie de lui mettre le chapeau sur la tête. Il se défend avec ses avocats, il se défend sur les médias sociaux, il se défend dans les médias traditionnels. À travers tout ça, bon, je pense que ça va être un témoignage très important cette semaine. Il faut rappeler que Maître Galant doit arriver avec un rapport d'ici la fin de l'année et que non seulement ça vise à savoir ce qui s'est passé, mais le but principal, c'est pas de faire rouler des têtes. Puis je sais que les gens sont, ils veulent...
On veut un coupable.
On veut un coupable et je le comprends. Mais il faut vraiment se rappeler de l'objectif en arrière de ça, c'est qu'on puisse dire plus jamais un fiasco informatique comme celui-là. Puis il y en a déjà qui sont en cours, là. Fait qu'il va en avoir d'autres. Mais il faut arrêter de toujours se remettre les mêmes pieds dans les mêmes plats. C'est des millions, des centaines de millions de dollars de notre argent. Et là, il y a un effet pervers. Puis moi, je veux lever un drapeau jaune à propos de ça. C'est que si on ne se donne pas des outils et si cette commission-là ne débouche pas sur des outils concrets qui permettent d'avoir des succès en informatique dans l'appareil gouvernemental, mais ce qui va se passer, c'est que les ministères, les ministres, les sociétés d'État vont toujours avoir les pieds sur les breaks pour les projets informatiques. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? On va se dire, ouf, ça peut peut-être attendre 2 ans, ce petit projet-là. Moi, je ne serai plus ministre, puis ça ne sera plus mon problème.
Ça
ne
tombera pas dessus. Ça
ne
va
pas finir en commission d'enquête.
Ça ne va pas polluer notre parti et tout ça. Puis même, je pense que ça pourrait, dans un angle mort supplémentaire, dissuader l'expertise, la jeunesse.
Aller
au gouvernement, qui veulent vraiment triper parce qu'ils vont se dire hey, on est un maillon faible, tant qu'à ça, on va aller travailler au privé ou à l'international avec notre expertise.
Et ce que ça va faire, en bout de ligne, c'est d'augmenter encore plus le retard de l'appareil gouvernemental en matière informatique. Donc ça, c'est dans l'angle mort. Il faut vraiment garder les yeux sur l'objectif. C'est sûr que c'est toujours plus croustillant les exécutions politiques publiques, mais si vous voulez vraiment qu'on arrête de gaspiller notre argent puis que le gouvernement arrête d'être tout croche en informatique, il va falloir se donner des outils aussi.
En effet, donc c'est pour ça que la date de décembre est très, 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 très importante. Parlant là, de sacrifier quelque chose ou de mettre un coupable à l'avant-plan, je veux te parler d'environnement parce que l'environnement s'est rendu le grand coupable des projets qui se font pas. On écoute François Legault.
Regarde ce que Mark Carney a fait. Il a enlevé la taxe carbone, il a enlevé les objectifs de véhicules électriques en pourcentage. Bon, évidemment, on parle pas de M. Trump. Québec peut pas être tout seul dans sa gang à dire « Nous, on est déjà les premiers en Amérique du Nord en environnement, puis on va en faire encore plus, plus, plus. »
On a une auditrice qui travaille en informatique au gouvernement qui dit « C'est déjà au ralenti pour les projets informatiques. » Et je comprends. C'est pour ça que ça prend un rapport rapidement. Il faut mettre les mesures en place. On revient sur l'environnement. L'environnement, c'est rendu que ça a tous les mots. Puis là, comprenez-moi, là, moi, je ne suis pas un extrémiste environnemental.
Non, moi non plus.
Mais je veux qu'on prenne soin de ma planète quand même. Puis je veux qu'on développe des projets d'économie verte parce qu'au Québec, on a toujours eu cette capacité-là avec justement l'hydroélectricité, maintenant les éoliennes.
Mais M. Legault le disait, on est déjà bon, mais faut arrêter toujours d'opposer économie et environnement.
Oui.
Puis ne rien faire aussi, ça a un coût. Et là, dans ce qu'on comprend dans les propos du premier ministre, c'est qu'on embarque dans le train de Carney. Parce que là, il se passe quelque chose au fédéral. Ben, il y a Mark, du bon là-dedans.
Je me trompe-tu? Mark est populaire, fait que je vais suivre ses traces. Peut-être que ma popularité va augmenter.
Ben, je vais en profiter. Puis en plus, ça me permet de... Tu sais, je veux dire, on va se dire la vérité, c'est emmerdant, ça, des lois environnementales puis des objectifs de réduction de gaz à effet de serre.
Trop compliqué.
Trop compliqué. Donc, on essaie un peu de profiter de ce momentum-là pour changer de direction en matière d'environnement. La CAQ, ça n'a jamais été la grande championne de l'environnement. Il n'y a personne qui va battre Québec solidaire, puis tout ça. Mais il faisait beaucoup de choses, discrètement, de manière très pragmatique. Beaucoup, on va miser beaucoup sur des mesures qui ne font pas suer le citoyen. On ne vous demande pas de changer de mode de vie drastiquement. On va commencer par électrifier. On participe à la bourse du carbone. Oui, vous avez un coût sur votre essence en bout de ligne, mais ce n'est pas comme la taxe carbone directement. Et l'argent qu'on va aller chercher avec ces redevances-là, on les met sur des projets de transition, décarbonation, etc., chez les entreprises, des innovations aussi qu'on va aller faire pour baisser les gaz à effet de serre. Est-ce qu'en ce moment, c'est moins à la mode? Clairement, avec l'abandon de la taxe carbone au fédéral et Éric Duhaime qui en fait un cheval de bataille.
Mon char, mon choix.
T'sais, la bourse du carbone, on n'en parlait jamais. C'était un petit peu du non-dit, etc. Mais là, que le gouvernement décide de juste en profiter à 100% pour vraiment baisser la garde puis reculer sur des acquis. Puis là, je parle à travers mon chapeau. Je l'ai pas vu, le plan. C'est l'impression qu'on a quand on écoute le premier ministre.
Si on écoute le discours de François Legault à Bernard Drinville, c'est « On a l'homme parfait en place pour faire en sorte que nos projets se frappent pas le nez sur les barrières environnementales et soient réalisés. » C'est ça, le mandat de Bernard Drinville. Donc, Bernard Drinville, il a le mandat d'enlever l'environnement dans le ministère de l'Environnement.
Tu sais, quand il avait été nommé ministre de l'Environnement, pas mal de gens qui ont fait des blagues avec « Lâchez-moi », avec les GES. C'est comme si le premier ministre l'avait pris au premier degré.
Ben, écoute, il a pris Cruella au premier degré.
Colin! Donc, ça, l'environnement, ça va être à surveiller. Parce que là, il y a comme un petit momentum où, effectivement, les gens sont moins là-dessus. Il y a un petit peu plus d'ouverture aux hydrocarbures, aux pipelines, etc. On le sent.
Parce que c'est souffrant comme, économiquement parlant. Fait que là, la priorité est clairement pas celle que les gens voient comme étant un peu moins pressante. Là.
Mais le gouvernement a aussi la responsabilité de faire de la pédagogie sur les coûts de l'inertie.
C'est ouais. tellement important, ça. C'est le point crucial ben oui. de raconter leur rencontre, d'expliquer pourquoi ils s'en vont là, pas juste imposer. Il faut qu'il y ait un ralliement derrière ces mesures-là et qu'ils ne soient pas automatiquement décatégorisés d'un programme intéressant.
Puis je sais que c'est pas super populaire, mais d'expliquer aussi les coûts de la crise climatique, ça a un coût. Là. Les gens, ils vivent les inondations, les canicules, les feux de forêt. Ça aussi, ça a un coût. Mm-hmm. Donc, je pense que le Québec peut aussi être un leader, pas juste embarquer tout le temps dans le wagon, là, poursuivre le gouvernement fédéral. On a de l'énergie propre en plus. On a des belles opportunités économiques. Donc, j'espère qu'ils vont trouver le bon équilibre, mais disons que j'ai des petites inquiétudes à ce niveau.
Pas de Nordvolt, on n'est pas là.
Ben c'est ça. T'sais, Nordvolt, Autobus Lyon, ces temps-ci, disons que si on a beaucoup d'exemples. On a l'impression que l'actualité fait en sorte qu'on se dit « Oui, ben ça marche pas. Là, tout pognant en feu. Littéralement, ouais. les autobus électriques pognant en feu. » Fait que on débarque.
Vendredi matin, c'était pas évident. On termine ce caucus Iaccarini qui est sur nos ondes du lundi au jeudi de midi à 12h30 avec François Legault. Va-t-il s'accrocher à la tête de la Coalition Avenir Québec? Voici ce qu'il a déclaré sur les ondes du 98.5 à Montréal.
Bon. Ben, écoutez, d'abord, quand je regarde le contenu, là, ce sur quoi on veut travailler dans la dernière année, quand je regarde l'équipe que j'ai réunie, on est une coalition, hein, il y a des très nationalistes, très économiques.
Des fédéralistes.
Ben, en tout cas, disons,
il y en a quelques-uns.
Et pour qui l'économie, c'est la priorité. Et ben, je pense qu'il faut que je sois là pour être capable de tenir ça ensemble.
C'est lui le maître de « si tout le monde est main dans la main, c'est grâce à François Legault ». Pourtant, il me semble qu'il y a des cracks dans le CAQ.
Oui, mais en ce moment, on dirait que c'est la peste ou le choléra. C'est-à-dire que je suis un peu d'accord avec son interprétation. Vas-y ça peut donc. Avoir l'air un peu moi, mais c'est un parti politique qui l'a créé.
C'est clair.
Qui est articulé autour de lui.
Ben oui.
C'est des gens qui l'est allé chercher un après l'autre et qui sont réunis autour de certaines idées qui sont les obsessions de François Legault, économie...
Certainement pas le fédéralisme, par exemple. On a entendu sa petite hésitation.
Non, il en veut pas. Hein? Il en voulait pas le fédéralisme. Il disait des nationalistes puis des moins nationalistes. Donc, on voit son positionnement. Cela dit, il considère que si... En fait, ce que je dénote de cette phrase-là, c'est si je m'en vais, tout ça, ça tient plus. Là. C'est moi qui tiens tous ensemble. Je suis un peu le ciment, ce qui est pas complètement faux. Donc, il se fait toujours demander s'il va laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, le message que François Legault nous envoie présentement, c'est ça va-tu vraiment être mieux avec un autre? C'est pas un vote de confiance envers les successeurs potentiels qui viennent de faire là, le François
Legault. Plein, ça, et il n'a pas nommé de vice-première ministre, alors ça laisse présager qu'il veut encore avoir les deux mains sur le volant pour l'élection de 2026. Antonine Iaccarini, je termine le caucus Iaccarini avec Pierre-Luc qui écrit « Est trop bonne, Antonine, elle me fait changer d'opinion sur bien des sujets. » Ben moi aussi.
Ah! Fait que
bravo, Antonine. Merci pour tes excellentes analyses et chroniques. On apprécie grandement. Et on se parle demain midi pour le caucus Iaccarini.
À demain.
À demain. Entre-temps, on fait une courte pause. Par la suite, Hélanie Lepage, qui est l'ancienne attachée de presse de Bruno Marchand maintenant, candidate pour Québec fort et fier dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, va venir nous parler. Plan ambitieux de Québec fort et fier pour le quartier Saint-Roch. Revitaliser ce quartier-là. Et on va également faire le tour des manchettes avec Pascal CV. Et Pascal, tu nous as préparé un excellent dossier. Tu as parlé avec une femme prise dans un accident pour le moins rock'n'roll.
Oui, et moi, ça m'a particulièrement touché cette situation-là où il y a une femme qui, avec sa voiture, est restée coincée entre un autobus scolaire puis un poids lourd. Récemment, dans notre région, le poids lourd l'a ramassé de plein fouet. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y aurait pas eu le temps et où il n'aurait pas pesé sur le frein.
Ouais.
C'est encore nébuleux. On est en enquête. C'est une véritable miraculée. Puis là,
mais...
par le fait même, en étant placé là, sauver peut-être la vie d'enfant dans l'autobus scolaire qui était immobilisé à ce moment-là pour laisser sortir un jeune et prendre d'autres jeunes.
Oui.
C'est à se demander qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est en enquête, mais il nous a donné une entrevue. Je lui ai parlé ce matin. Il y a bien des choses qui ressortent de ça.
Entrevue exclusive pour sur Boulevard 102. Alors, c'est payant pour vous d'écouter l'émission On en jase le midi sur les ondes de Boulevard 102.
Absolument vraiment une belle journée aujourd'hui. Une belle journée, mais une belle semaine aussi. Jusqu'à jeudi, c'est du soleil sur notre radar. Puis à 12h30, ça se peut que ça tente d'aller faire autre chose que de rester dans ton cubicule, dans ton bureau, à l'entreprise, mais que tu aies envie d'aller manger dehors. On est à l'aube de l'automne. Ce sont nos dernières terrasses. Puis à 20 degrés, elle est confortable, cette terrasse-là. Le Maurice l'a compris, puis on vous accueille du côté de Grande Allée encore toute la semaine sur la magnifique terrasse. Elle est grande, elle est bien positionnée. Vous voyez les gens autant qui sont ici en touristes ou encore qui se promènent pour le plaisir, les gens du quartier, les gens qui travaillent. Vous allez être récompensés d'aller au Maurice. Pourquoi? Parce que la nourriture est toujours excellente. On ne fait pas du tout dans la dentelle. On fait ça extraordinairement bon pour vous et que ça plaise à tout le monde. Si vous avez des clients aussi à sortir, posez-vous pas de questions, allez au Maurice. Si vous êtes un peu plus frileux, vous, un 20 degrés, ça vous tente pas, ben à l'intérieur, c'est une magnifique salle vitrée qu'on vous a offert. Une magnifique salle tout fraîchement rénovée parce qu'on vient d'ouvrir il y a un an et c'est séparé de main de maître dans le sens où si tu as envie d'avoir un petit endroit plus isolé, plus calme ou tu as envie de faire partie de cette grande table du midi ou du soir, ben t'en fais partie. Au Maurice, on a même un beau bar pour toi. Si tu veux aller avec une date, tu veux aller là avec quelqu'un qui est proche de toi ou encore seul, gêne-toi pas. On t'accueille peu importe ce que tu as envie comme feeling gastronomique et de restauration. Le Maurice sur Grande Allée, il y a du stationnement tout autour. C'est la place où aller. Encore une belle terrasse. Profitez-en pour nous. On reste en studio, nous autres. Vous, vous pouvez sortir. 12h34, c'est votre cue pour aller en profiter en ce lundi sur la Grande Allée.
Depuis plus de 30 ans, on jase!
Tout ce que vous devez savoir et mettez-en parce qu'il y en a de l'actualité aujourd'hui. Ouh, c'est un lundi occupé, Pascal Cévin, hein? 12h38. Ça chauffe pour toi qui suis l'actualité pour nos auditeurs.
Oui, bon, je t'alerte sur tout ce qui sort et je vous dirais, je vais faire une petite revue des derniers dossiers à savoir.
Let's
parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont quand même pris d'assaut notre mémoire, notre émotivité, entre autres celui de la fillette qui avait été abandonnée par sa mère du côté de Montréal. Rappelez-vous, elle avait été retrouvée en bordure d'autoroute. C'était 3 jours d'intense recherche. Il n'y avait pas grand-chose qu'on comprenait. On avait presque perdu espoir hein, de la
oui,
retrouver,
vraiment.
La jeune fille. Et puis finalement, c'est en Ontario qu'on avait réussi avec les policiers à la repérer dans un genre de côté d'autoroute. Elle a passé des journées dans le fossé. Bon, la Montréalaise qui a abandonné sa fillette de 3 ans, elle a 34 ans. C'est une femme qui a reçu son rapport psychiatrique. On était de retour en cours aujourd'hui. Et ce qu'on apprend, c'est qu'elle est non criminellement responsable. C'est tombé, donc elle souffrait d'un épisode de manie mixte avec symptômes psychotiques au moment des tristes événements. On dit que ça l'empêchait de distinguer le bien et le mal. Elle a été reconnue non criminellement responsable de négligence criminelle causant des lésions, d'abandon d'enfants. Et c'est à l'accord des parents. Le juge a pris la parole, Bertrand Saint-Arnaud, et a dit « Quiconque prend connaissance là, de toute la preuve, du rapport psychiatrique qui est complet, qui est très exhaustif, ne peut être convaincu qu'il s'agit du bon verdict à rendre. » Donc, il dit « Pour tout le monde, là, c'est sûr qu'on s'en va là, puis tout le monde est un peu en accord avec ça. » Ça reste que quand t'entends ça, t'es un peu troublé. Hein? C'est tout le monde,
vraiment?
Quand ça s'en prend à des enfants, on est comme directement impliqué là-dedans. Faut savoir que la mère a indiqué à la policière qu'elle avait été dépêchée sur les lieux, qu'elle n'avait pas dormi de la nuit, que la fille s'était levée, qu'elle a commencé à préparer le déjeuner, elle chantait, elle dansait, puis soudain, elle a eu peur de quelque chose, elle a paniqué, et c'est là qu'elle est partie avec la petite, le chien en auto.
Donc, et puis ça nous fait d'autant plus réagir avec les événements des dernières années, notamment la fillette de Granby et le rapport de la coroner Kamel qui était sorti là, dernièrement. Là. Donc, c'est clair que ça nous crée toujours certaines émotions. Il y a Dominique Laroche aussi qui demeure incarcéré.
Oui, Dominique Laroche reste incarcéré. Il est coupable de crimes sexuels sur une adolescente. C'est l'ex-champion de ski acrobatique. Il va être en détention en attendant de connaître sa peine pour les crimes sexuels. Et c'est ce qu'on a tranché ce matin là, au palais de justice. Vous savez qu'il était, il pouvait recouvrir sa liberté sous condition jusqu'à temps qu'il revienne en cours. Par contre, il avait été amené à l'hôpital, en fait, parce qu'il y avait attenté à ses jours.
Mm-hmm.
Donc là, on a changé un peu le fusil d'épaule. On est allé plus loin parce que c'est de graves infractions. Là. Reconnu coupable de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, d'exploitation sexuelle sur une adolescente proche de la famille. Accusations qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à 14 ans. Sinon, autre dossier, encore une fois, un dossier émotif, celui de la tragédie du côté de Laval. Le chauffeur d'autobus qui a tué 2 enfants quand il avait foncé dans une garderie.
Oui.
Bon, il pourrait être incapable de se contrôler face à une autre psychose et on tranche qu'il a commis l'irréparable, mais on a encore peur de cet homme-là. Donc, après un psychiatre légiste, on a choisi que Pierre-Nis Saint-Amand est un délinquant à haut risque. C'est la couronne qui a tranché. Donc, si monsieur n'est pas capable d'identifier les indices précurseurs là, d'un nouvel épisode, c'est là qu'on a une grande inquiétude. Et c'est ce qu'a analysé le docteur Sylvain Fauché. Ça a été fait ce matin au palais de justice dans le dossier de Pierre-Nis Saint-Amand. On témoigne en marge d'une requête de la couronne. On souhaite que l'étiquette de délinquant à haut risque soit apposée à son dossier. Je vous rappelle, il a 53 ans. Et on fera d'autres nouvelles au courant de l'émission, mais je reviens sur ce qui est tombé dans les dernières minutes, dans la dernière heure, au sujet du meurtre à Lévis. Il y a le suspect qui avait des problèmes de santé mentale, donc un homme de 48 ans, connu pour ses problèmes de santé mentale, qui est accusé de meurtre non prémédité. C'est celui qui aurait poignardé un homme de Lévis. Vincent Boulanger, accusé pour meurtre au deuxième degré. Il s'agit de sa première infraction au code criminel.
On s'excuse pour ces nouvelles troublantes. Honnêtement, c'est un lundi très lourd dans l'actualité. Malheureusement, il y a des journées comme celle-ci. On va vous tenir au courant là, des développements, comme Pascal vient de le dire. Merci, Pascal, pour cet excellent résumé. C'était à la une du Journal de Québec aujourd'hui. 100 millions de dollars d'investissement pour le quartier Saint-Roch. C'est Bruno Marchand qui promet ceci s'il est réélu comme maire de Québec, et on a le bonheur de recevoir en onde la candidate ex-attachée de presse de Bruno Marchand dans Saint-Roch-Saint-Sauveur pour Québec Fort et Fier, Eleni Lepage. Eleni, comment ça va?
Hey, ça va tellement bien. Ouais. On a vraiment une bonne nouvelle aujourd'hui.
Ben j'écoutais oui, c'est
le,
ça.
Le topo des nouvelles qui m'a un petit peu mis le cœur à l'envers, mais il faut se rappeler que je suis ici pour parler de bonnes nouvelles pour Saint-Roch.
Exactement. Hey, avant de rentrer dans le vif du sujet de Saint-Roch, je fais un podcast ce soir. Ben, j'ai fait un podcast qui va être diffusé ce soir avec Alicia Despins, conseillère municipale dans Vanier-du-Berger, sur les jeunes femmes en politique. Toi, Eleni, t'as pas 30 ans, tu décides de te lancer en campagne électorale avec un jeune enfant à la maison. Qu'est-ce qui te motive tant que ça?
Hey, je suis comme un poisson dans l'eau en ce moment.
Depuis ça que paraît j'ai... avec ton nom verbal, je te le dis.
J'ai arrêté de travailler en juillet au cabinet du maire en tant qu'attachée de presse. Moi, je reste dans Saint-Sauveur, à la limite de Saint-Roch. Je suis en amour avec la Basse-Ville. C'est la Basse-Ville qui m'a fait tomber en amour avec Québec quand je suis arrivée ici il y a 8 ans.
Nice.
Puis, t'étais où avant?
J'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu,
okay,
une banlieue de Montréal.
Okay.
Exact. C'est pas Montréal, c'est la banlieue de Montréal.
Qu'est-ce qui t'a amené à Québec?
Les études. Puis après ça, tout simplement tomber amoureuse de la ville, la magnifique ville de Québec. Puis, je vous avoue que depuis 4 ans, j'ai adoré mon expérience au cabinet du maire. J'ai appris la machine municipale, j'ai appris la politique aussi, parce que moi, j'ai pas étudié là-dedans. Et j'avoue que je m'ennuyais du terrain. Moi, j'étais une fille de terrain, j'étais une fille de coordination. J'aime ça travailler avec les gens. J'ai travaillé en service à la clientèle, puis c'est ce qui me manquait énormément. Puis là, en campagne électorale, je retrouve ça. Puis ce que j'aime, c'est d'aller rencontrer les gens. Les gens sont remplis de ressources, de solutions, d'idées. Ils rêvent la ville, ils rêvent la Basse-Ville, Saint-Roch, Saint-Sauveur. Je baigne là-dedans depuis plusieurs semaines déjà, puis j'espère pouvoir continuer à baigner là-dedans après le 2 novembre.
Il y a beaucoup de messages haineux sur les médias sociaux à l'heure actuelle envers les politiciens. Bon, je suis les pages de pas mal tous les politiciens. On va parler justement d'un sujet qui amène énormément de réactions, Saint-Roch. Comment tu vis avec ça? Parce que j'en ai vu là, sur ta page des gens qui disent « Ah, vous avez rien fait depuis 4 ans, comment ça? Gang de losers, rah, rah, rah. » Je veux pas répéter les mots les plus gros qui peuvent se retrouver sur ta page. Mais comment tu vis avec ça comme jeune femme?
Bien, c'est certain que, bon, au début, quand je suis arrivée au cabinet du maire, moi, certains ne le savent pas, mais j'étais attachée politique et je gérais les réseaux sociaux du maire.
Donc, t'es habituée.
Je suis habituée, je suis consciente de toutes les horreurs qui peuvent prendre place sur les réseaux sociaux. Là, c'est assez raide, des fois.
Puis là, on parle de Bruno Marchand, tu sais, ça n'a pas fait l'unanimité aussi.
Non.
Il y a un tournant à un moment donné. Donc, c'est vraiment ceux de Bruno Marchand, là.
Moi,
la mairie actuelle.
Oui, exactement. Bruno Marchand, maire de Québec, c'était moi qui gérais les réseaux sociaux. J'ai tout vu ça aller, mais j'ai aussi des femmes extraordinaires avec moi dans l'équipe, là, qu'on pense à Bianca Dussault qui en a vécu pas mal, Maude Mercier-Larouche. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de cynisme autour de la politique, puis quand on voit ça aller sur les réseaux sociaux, ça n'encourage pas tant que ça la relève à prendre le flambeau, mais moi, ça ne m'arrêtera pas.
Ben félicitations de prendre justement le flambeau. Moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui se lancent en politique. Je l'ai toujours dit, peut-être au tournant de mes 50 ans, ça sera un lancement politique pour moi. Ça fait partie de mes objectifs. En attendant, je regarde ça du coin de l'œil puis je le commente. Alors, bravo. Puis honnêtement, on le rappelle aux gens, vous avez le droit d'avoir des opinions différentes, vous avez le droit de loger politiquement ailleurs, mais la haine et les commentaires disgracieux n'ont pas leur place dans notre système politique. On a un système démocratique et il faut justement parler d'idées, débattre de nos idées, mais pas rentrer
Absolument.
Dans des propos haineux.
Puis je le dis souvent aux gens que je rencontre, tu sais, les citoyens, les commerçants, les organismes, si je suis élue le 2 novembre, on ne sera pas toujours d'accord, mais je vais toujours être ouverte à la discussion, mm-hmm. peu importe, tant que c'est courtois et qu'on ne tombe pas dans la haine. Parce que tout le monde a droit à ses idées. Ce n'est pas parce que j'ai une idée que c'est la meilleure et c'est la seule qui compte. Au contraire, c'est ce qui fait la beauté d'une communauté. Bref, tout ça pour dire que la haine, ça n'a pas sa place.
Non. Souvent, la ligne est mince entre vouloir gérer une ville ou une fois qu'on est élu, là, mm-hmm. en fonction de ce que les gens, mais pour toi, ça va être Saint-Roch, si ça fonctionne et tout ça, souhaitent. Mais en même temps, il y a toujours l'en arrière, hein? Puis il y a le parti aussi, la voie de parti. Comment est-ce que tu vas, si tu es élu, être capable de jongler entre ce que les gens te demandent, puis des fois l'incapacité de le livrer parce que ben il faut que tu suives ta ligne de parti et où tu suives ce que tu es capable de réaliser?
Ça me fait... C'est toujours... La ligne de parti, je vous avoue que c'est pas quelque chose qu'on connaît chez Québec Fort et Fier. Bien honnêtement, là, chaque conseiller municipal a sa voix, peut porter le message qu'il le souhaite et qu'il a... qu'il est allé chercher auprès des citoyens. Parce que les gens qui siègent au comité exécutif ont leur mot à dire, peu importe quelle est leur opinion. On peut penser Jean-François Gosselin et Bianca Dussault, qui étaient un peu aux antipodes de nous en 2021. Bien, quand ils sont arrivés à la table des discussions, ils avaient leur mot à dire, ils avaient leur place, ils sont entendus. On est vraiment chanceux de pouvoir compter sur une équipe qui est aussi variée chez Québec Fort et Fier. On a des gens du centre-ville, on a des gens de la périphérie, on a des gens qui sont ancrés dans leur milieu puis qui ont des milieux de vie différent. Là, je veux dire, moi, j'ai choisi de vivre au centre-ville. C'est pas le choix que ma collègue Marie-Pierre Boucher a fait dans Louis XIV à Charlebourg, tu sais. Donc, tous nos points de vue sont valides. Puis, les conseillers municipaux, on porte la voix des citoyens qu'on rencontre au café, qu'on rencontre à l'épicerie, qu'on rencontre sur la rue, sur le trottoir. Donc, on n'est pas dupes. Puis, c'est pour eux qu'on est élus. C'est pas pour la ligne de parti. Mm-hmm. Puis au final, ce que tout le monde souhaite, c'est de faire de Québec un lieu encore meilleur, encore plus vivant, encore plus fort, encore plus fier.
As-tu l'impression d'arriver dans le momentum parfait? Parce que les travaux sur Saint-Vallier-Ouest vont être terminés dans Saint-Sauveur. Là, Bruno Marchand annonce 100 millions pour Saint-Roch. Coudonc, il aimait pas Pierre-Luc Lachance, Bruno Marchand?
Pierre-Luc Lachance a fait vraiment beaucoup dans les dernières années. C'est d'ailleurs grâce à lui que Saint-Vallier-Ouest va être revampé avec plus de verdure, avec des bacs de rétention, avec du pavé, des larges trottoirs sur lesquels on peut déambuler facilement.
Un beau projet pour les jeunes familles dans Saint-Sauveur, ça c'est clair, je l'ai toujours dit.
Et pour les commerçants. Ensuite de ça, ben là, le 100 millions, c'est un plan qu'on a pour les 4 prochaines années. Ce que le maire a annoncé ce matin, c'est notre vision pour Saint-Roch. On le sait, on n'est pas dupes. Je veux dire, moi, je vis dans le quartier. J'ai vu les changements sociaux dans les dernières années. Puis ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est notre plan pour l'avenir.
Ouais. Question d'un auditeur, puis je la trouve très pertinente. Il y a un an à peine, le maire Marchand disait qu'il n'y avait pas de problème à Saint-Roch. Alors, comment ne pas être cynique avec le 100 millions? Là, tu hoches la tête. Non. Mais est-ce qu'en politique, on essaye toujours pareil d'essayer de garder ça le moins lettre possible, je vais le dire de même?
C'est une bonne question. En fait, le maire n'a jamais dit que tout allait bien puis tout était rose dans Saint-Roch. On a toujours été extrêmement lucide de la situation. Qu'on pense à la crise du logement, la crise des opioïdes, la montée de l'itinérance. Il y a eu une conjoncture assez intense dans le centre-ville. On en a toujours été extrêmement conscient. Cela étant dit, je pense que de dire sur toutes les tribunes que Saint-Roch brûle n'est pas nécessairement la solution parce qu'on vient exacerber le problème. Les gens, ça crée une certaine crainte chez les citoyens de la banlieue, de la périphérie, qui se disent « Ah, je veux pas aller au centre-ville, c'est dangereux », alors que, tu sais, oui, il y a certaines insécurités qui peuvent naître, mais moi, je me promène là à toutes les semaines avec mon garçon, puis je personnellement, ne vis pas l'insécurité que certains ont pu décrier, alors qu'elle peut être tout à fait légitime.
L'itinérance, t'as qui le dossier de l'itinérance, à qui ça appartient? Parce que Bruno Marchand avait dit itinérance zéro. Bon, somme toute, l'itinérance a augmenté dans les 4 dernières années. C'est à qui que ça appartient, puis comment on travaille ça?
C'est un travail d'équipe, mais le joueur majeur, principal, c'est le gouvernement du Québec. Parce que nous, les municipalités, on peut mettre plus d'argent pour avoir la patrouille multi des policiers qui se promènent à pied plus nombreuses. On peut mettre en place l'école bleue qui passe plus souvent sur Saint-Joseph pour venir nettoyer la rue. On peut financer la brigade Saint-Roch. Je l'ai vu, moi, depuis que la brigade de propreté Saint-Roch, je pense que j'ai jamais vu Saint-Joseph aussi propre depuis 8 ans. T'sais.
C'est une bonne nouvelle.
C'est vraiment une excellente nouvelle. Fait que nous, on a certains leviers. Par contre, on n'a pas de travailleurs sociaux. On n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas... Il y a beaucoup de choses qui relèvent du gouvernement provincial. Le maire Marchand a été le maire qui en a le plus parlé au Québec au cours des 4 dernières années pour dire au gouvernement « Aidez-nous ». On veut aider les citoyens à sortir de la rue, on veut freiner l'hémorragie parce qu'il y en a trop qui rentrent dans la rue, mais on ne peut pas faire ça tout seul en tant que municipalité. Puis, si ça n'avait pas été de Bruno Marchand, on n'en aurait pas autant parlé, alors que la crise de l'itinérance, elle se vit dans toutes les municipalités
du
Québec.
Toi, t'es-tu satisfaite du gouvernement du Québec? Parce que moi, je suis insatisfait, là.
Je pense qu'il y en a beaucoup à faire. Il y a énormément de travail à faire. Nous, il y a trois fronts sur lesquels on peut essayer de mitiguer l'entrée des gens dans la rue. Il y a plus de services en santé mentale. Ça manque. Il y a essayer de donner un petit peu plus de pouvoir d'achat aux citoyens parce qu'on sait que l'inflation a galopé dans les dernières années. Et il y a offrir du logement. Nous, le seul des trois sur lesquels on peut vraiment jouer, c'est en offrant du logement social. Ce que le maire a annoncé ce matin dans Saint-Roch, seulement dans Saint-Roch, parce qu'on a le pied dans le fond pour le logement partout sur les territoires de la ville, c'est 1 800 logements, dont 32 % seront du logement social et abordable et communautaire qui serait accessible. Donc, on fait notre part. On a triplé les montants en logements sociaux dans les quatre dernières années depuis qu'on est arrivé parce qu'on est conscient que ça a un impact direct dans la vie des personnes en situation d'itinérance ou marginalisées ou plus vulnérables. Mais on va avoir besoin du gouvernement du Québec pour nous aider là-dedans et qu'il en fasse une priorité nationale.
Il semble dire que c'est leur priorité aussi parce qu'on voit l'itinérance un peu partout, en région également. Quand on voit que c'est un Canadien sur 10, environ 11 % qui a déjà vécu une forme d'itinérance au cours de sa vie, puis ça, c'est des statistiques qui sont sorties, là. C'est en 2021. Alors, dites-vous qu'une personne sur 10 en 2021 disait avoir vécu une forme d'itinérance dans sa vie. On est rendu en 2025, ça explose partout. La province, c'est une chose au municipal de construire des logements sociaux. On sait que c'est une façon d'aller aider. Mais initialement, il y a quelque chose qui se passe à Québec pour que ça ait pris autant d'ampleur. Je ne peux pas croire que c'est juste une migration de Montréal à Québec. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Mais c'est pas juste à Québec. Hein? Rimouski a ouvert, je pense, la semaine dernière, son premier lieu d'hébergement.
Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé?
La même chose que partout dans les autres centres-villes du Québec, du Canada et de l'Amérique du Nord. Avec la pandémie, revenons 4 ans en arrière. Quand on a été élu, je dis « on » parce que je faisais partie de l'équipe, quand on a été élu en 2021, on avait encore des masques, il y avait encore des confinements. Les mesures sanitaires ont été levées en 2023, puis c'est à partir de là qu'on a été capable de prendre la pleine mesure de l'impact que la pandémie avait eu sur les crises sociales, économiques aussi. Je veux dire, l'économie a été assez difficile et tumultueuse dans les 4 dernières années. Il n'y a personne qui aurait pu prévoir que ça aurait cet impact-là sur nos centres-villes. D'abord parce qu'il y a la crise du logement, l'inflation, l'épicerie coûte plus cher, les loyers ont monté. Mais on peut aussi se rappeler que le commerce de détail a grandement été affecté par la pandémie. Les gens ont commencé à acheter en ligne, ils vont moins sur les artères de proximité, vont moins acheter dans les boutiques. Ensuite de ça, il y a aussi eu le fait que les gens, quand Saint-Roch a été relancé, fin 90, début 2000, grâce au maire Lallier, ils ont beaucoup misé sur les espaces à bureaux, hein, des travailleurs qui viennent dans Saint-Roch, qui travaillent dans Saint-Roch, qui mangent au restaurant le midi. Avec la pandémie, ça a aussi changé les habitudes de travail. Les gens ont commencé à faire du télétravail plutôt que de se déplacer. Ça a donc diminué l'achalandage au centre-ville, ce qui a aussi exacerbé la situation. Puis un centre-ville, c'est le reflet exponentiel des crises qu'une communauté peut vivre. Hein. C'est vraiment comme un microsystème où tout est amplifié. Donc, la crise du logement, elle est amplifiée dans Saint-Roch. Le changement d'habitude chez les commerces de détail, elle est amplifiée aussi. Bref, tout ça pour dire, il s'est passé beaucoup de choses socialement et économiquement au cours des dernières années que personne n'aurait pu voir venir. Et là, on en a pris la pleine mesure. On a travaillé avec les acteurs du milieu pour trouver des solutions. Puis on présente aujourd'hui le plan de match.
Je termine avec le parc Jean-Paul Lallier. Oui. Est-ce que on va remettre la fontaine rapidement en marche, parce que, puis là, je te taquine, là, mais t'as pris des photos à ce moment-là où c'est sorti dans le soleil, des belles images. Moi, j'en ai pris des moins belles. Fait que, dépendamment de comment on regarde le parc Jean-Paul Lallier, on le voit pas du même sens. Est-ce que c'est une priorité pour toi?
En fait, l'ensemble des infrastructures de proximité seront au cœur des priorités. On parle, ce matin, le maire a annoncé 100 millions sur plusieurs années.
Avec 5 parcs, là.
Avec 5 parcs. C'est pas sur 4 ans, les 100 millions, on s'entend. Mm-hmm. C'est sur un peu plus qu'une décennie. On veut réaménager le parc Jean-Paul Lallier, le parc Gilles-la-Montagne, la Marina Saint-Roch, si vous êtes allé cet été, là.
Oui.
Elle commence à avoir besoin d'amour.
Elle a besoin d'amour.
La place Jean-Cartier. Il faut qu'on réfléchisse ces services de proximité-là pour que ce soit agréable pour l'ensemble des citoyens. Le parc Jean-Paul Lallier fait partie de ce qui va être revitalisé. Est-ce que 3 millions dans une fontaine, c'est raisonnable dans le contexte actuel? Je ne crois pas. Je pense qu'on est, en fait, pour vraiment honorer la mémoire de M. Lallier, on devrait faire de ce parc-là une pierre deux coups. Pourquoi est-ce qu'on ne le réfléchit pas en faisant un espèce de bassin de rétention? Quand il y a eu des grandes crues d'eau ce printemps, début de l'été, il y avait des chutes dans la...
C'est vrai que c'est le tramway, qui est, le fameux tunnel du tramway qui retarde tout ça?
Ça, je vais vous laisser la ville vous répondre là-dessus, mais c'est certain que le tramway va passer à côté, donc ce serait pas super intelligent de dépenser, mettons, 3 millions pour après ça l'arrêter puis devoir remettre de l'argent. Il y a quand même un souci là, du portefeuille des citoyens.
Hélène Lepage, merci de te présenter en politique. Honnêtement, j'encourage tous les gens à le faire. On le répète, discuter de sujets, discuter d'enjeux, mais faites-le avec classe, faites-le de façon démocratique. On est dans un beau système démocratique qu'on ne veut pas perdre. Alors, les commentaires haineux sur les médias sociaux n'ont pas lieu. Merci en tant que jeune femme de t'impliquer en politique. Je te sens rayonnante, je te sens prête pour cette campagne électorale-là. Je te souhaite bon succès, puis au plaisir de se reparler.
Merci infiniment.
Ça me fait plaisir que je sois celui, que moi et Pascal, on soit ceux qui te permettent de casser la glace en radio.
Plaisir partagé.
Yes, merci beaucoup. Hélène Lepage, qui est candidate pour Québec forte et fière dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, ex-attachée de presse de Bruno Marchand, qui saute de l'autre côté de la clôture. Pascal, toi qui es une jeune femme aussi de 30 ans, ça t'inspire-tu?
Ben moi, je trouve ça le fun aussi de voir à quel moment elle s'est dit non, moi en arrière, c'est pas assez. Je veux être en avant.
Ouais.
Parce que souvent, il y en a qui vont préférer rester dans l'ombre longtemps. Mais dans l'ombre, ça embrase des affaires, même peut-être plus des fois que sur le terrain.
Exactement.
Fait que là, elle est où la mesure de poids? Je pense qu'elle va y goûter dans les prochaines semaines, puis elle va pouvoir commenter ça aussi tout au long.
Hey, en plein ça, puis je rouvre son micro 2 secondes. On fera un podcast ensemble après ta campagne électorale. Je veux savoir comment une jeune femme a vécu cette campagne électorale-là.
Absolument, avec un bambin de 2 ans, c'est
ouais,
sportif.
C'est ça, avec un bambin de 2 ans, dans un quartier central où il y a énormément de critiques, donc je veux savoir ça.
Parfait.
C'est bon? C'est un bon rendez-vous?
Ouais.
Excellent. Good. Salut, Lenny. Merci beaucoup. Pascal, t'as rencontré une autre jeune femme, toi, qui a vécu tout qu'un événement, c'est-à-dire... Non, on va y aller tout de suite. Oh, oui.
Okay.
C'est-à-dire que... on va y aller après la pause.
Moi aussi, je pense.
Ouais, c'est ça. Tu viens de me faire un signe, j'avais mal compris. Oui. Hey, je m'excuse, on y va après la pause.
On y va après la pause.
Avec ton dossier, mais, parce que t'as rencontré... Mais fais-nous un résumé de ton dossier qui s'en vient.
J'ai parlé à Claudia Boucher. Ça vous dit rien, c'est normal. C'est pas une superstar, c'est pas quelqu'un qui marque votre actualité. Mais sans que vous le sachiez, c'est une femme miraculée qui a probablement aidé à ce que certains de vos enfants ou des enfants que vous connaissez aient encore une vie. Pas parce qu'elle a choisi, mais parce qu'elle était au mauvais moment, à la mauvaise place. Rappelez-vous l'accident il y a quelques jours dans le Binière où il y a un poids lourd qui a foncé à toute vitesse dans une voiture. Voiture qui a été coincée entre un autobus scolaire avec une 20aine d'élèves à bord. Elle s'est ramassée en porte-à-faux, entre les deux. Là.
Ouais.
Donc, ramassée comme la crème du Oreo. Là. Mais pas à peu près. Miraculée. Elle s'en tire, elle n'a pas de blessure, rien. On est allé faire, bien sûr, tout ce qu'il faut à l'hôpital. Chose certaine, elle a un témoignage assez poignant à livrer parce que ça ne doit pas réarriver. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a des accidents avec les poids lourds ici au Québec. Puis on se rend compte qu'il n'y aurait probablement pas freiné. On va l'écouter de l'autre côté de la pause.
Merci beaucoup, Pascal Cévé. On aura également Frédéric Maheu, qui est président du syndicat des ambulanciers ici à Québec, qui va venir nous parler des problématiques à la centrale 911 ici à Québec. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase. Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal Cévé. Je vous rappelle qu'il y a toujours le caucus Iaccarini du lundi au jeudi de midi à 12h30 avec Antonine Iaccarini. Je vole les mots de Pierre-Luc qui dit « Antonine, elle me fait changer d'idée sur plein d'affaires. » Elle nous analyse et nous explique très bien l'actualité. Météo, 20 degrés à l'heure actuelle, 23 degrés ensoleillés pour aujourd'hui. 25, 26, 25 ensoleillés les 3 prochains jours. C'est une superbe semaine du mois de septembre. Pascal, tantôt, tu nous parlais de plein de faits divers, plein d'actualités judiciaires. Puis, à travers tout ça, on dirait que je viens d'en oublier. Et là, tu m'as rappelé tout à l'heure, Jeff, il est arrivé un gros accident la semaine dernière, un poids lourd et un autobus scolaire.
Ouais, puis heureusement, là, ce sont des miraculés.
Oui, hein?
Tout. Les personnes qui étaient soit à bord de l'autobus scolaire, à bord du véhicule utilitaire, là, un genre de VUS, puis celui du poids lourd. Tout le monde, il y en a pour qui ils sont allés à l'hôpital, mais s'en sortent avec des blessures qui sont, somme toute, mineures.
Mm-hmm.
Quand tu vois ce qui est arrivé à la Binière, là, c'est un poids lourd qui fonce en toute vitesse sur le VUS qui était arrêté parce que l'autobus scolaire faisait descendre des jeunes. Il y en avait 24 à bord, 24 jeunes qui partaient de Sainte-Croix et qui s'en allaient justement un peu plus creux dans la région et qui, sans crier gare, se sont fait ramasser, mais violemment, par le poids lourd. On est en enquête en ce moment, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On entend plein d'histoires, il y en a en Ontario, des gens qui sont décédés. Ça aurait pu être le cas de ces gens-là. pour une raison qu'on ignore, tu sais, quand la vie est de ton bord puis c'est pas le temps que tu partes, là. Mais ça, c'est arrivé à Claudia Boucher. Je l'ai retrouvée en fin de semaine et elle m'a accordé une entrevue ce matin, une entrevue assez touchante, parce que c'est elle qui était dans le véhicule entre l'autobus scolaire et le poids lourd qui l'a frappé de plein fouet.
Donc, elle est miraculeuse, parce que normalement, elle est écrasante les deux, là.
C'est une victime survivante de cet accident-là. La première question que j'ai posée, c'est comment ça va?
Je pense tout le temps à ça, dans le fond, là. Fait que, c'est sûr que je suis quand même traumatisée, là, dans le sens où c'est un accident qui a été extrêmement violent. Puis, en plus, avec l'autobus scolaire, ben c'est sûr que tu repasses dans ta tête. Là, si ma voiture avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? C'est tout de suite les choses auxquelles j'ai pensé en premier. Puis, tout le monde salue, mon empathie et tout ça, mais au final, qu'est-ce qui se serait passé pour de vrai si j'avais pas été là? Le camion est arrivé à tout à l'heure. Hein? Puis c'était un autobus arrêté sur une route. Là.
Elle a carrément servi de tampon entre cet autobus scolaire-là qui avait 24 jeunes à bord et le poids lourd qui arrivait à tout à l'heure.
Oui, puis quand tu regardes la voiture, là, c'est la partie conducteur qui est épargnée dans tout ça, ou approximativement. Ouf. Mais tu sais, c'était une belle journée, bien relax, comme n'importe qui. On part le matin, on fait nos petites affaires, on dit salut aux gens qu'on aime, puis on prend la route, là.
Tu sais, l'accident est sous enquête, mais tu sais, moi, ma version des faits est relativement simple dans le sens où j'avais été au vétérinaire à Laurier Station, puis je m'en allais rejoindre une amie à Sainte-Croix. Donc, c'est une route que je connaissais, que j'avais déjà circulé dessus. Ça roulait bien, hein, faisait soleil, j'écoutais la radio, tout allait bien, hein, tu sais, je respirais le grand air, je suivais l'autobus, puis là, après ça, il a arrêté pour... prendre une jeune du côté droit, là, tu sais, je pourrais même faire des descriptions physiques, là, des jeunes, là, qui ont embarqué, là, avant l'incident. Après ça, on a arrêté un autre arrêt. Il y a un garçon du côté gauche, à qui il devait traverser. Puis après ça, je me suis arrêtée probablement, peut-être le troisième ou le quatrième arrêt. Et puis, ça l'a juste explosé dans ma voiture.
Juste explosé dans ma voiture. Ah, tu dois être traumatisé.
Elle n'a pas senti de frein, elle n'a rien senti de ralentissement. Il n'y a pas eu un klaxon, il n'y a pas eu un bruit de frein, de ce que je comprends de la conversation que j'ai eue avec elle. Et ça y ramène au fait qu'elle, c'est rare qu'elle est toute seule dans sa voiture.
Il n'y a pas eu de délai. Là. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais je me suis fait fracasser. Là. C'était un impact tellement violent, mais moi, sur le moment, je comprenais pas ce qui se passait. Je pensais que j'étais morte. Je pensais que c'était la fin de ma vie. Là. Le verre, la poussière de vitre, toute la vitre que j'ai reçue, je me suis cognée dans mon véhicule. Ça l'a revolé. Puis là, quand tout ce gros vacarme-là a arrêté, puis ma voiture a cessé de bouger, mais j'ai été capable d'ouvrir ma porte. J'avais plus rien dans les pieds. Puis j'ai marché en titubant, tu sais, puis j'étais vraiment sous le choc, mais là, je me suis retournée en m'écrasant dans le gazon, si je peux le dire, là, de la maison qui était là. Puis là, j'ai vu l'autobus. L'autobus n'était pas amoché, mais je l'avais quand même fessé. Puis là, j'ai vu le camion. Puis là, j'ai compris, tu sais, que là, je venais de me faire ramasser solide par ce camion-là. T'sais, c'est un camion de 53 pieds, là. On parle pas d'une petite fourgonnette, là. T'sais, ça l'a fessé. C'est un méchant temps. Mais c'est déjà que j'étais pas écrapoutie puis que j'ai pu ouvrir ma porte. T'sais, tout le monde qui regarde mon véhicule fait « Ben voyons, ta place dans le char est la seule qui est intacte. »
Ça n'a pas de sens. Hein? C'est une miraculeuse. C'est même pas rendu compte que le polo arrivait tellement il arrivait vite puis il n'a pas freiné.
Ben non, puis elle suivait la circulation, l'autobus en avant, mais il aurait pu avoir ses enfants dans l'auto.
T'sais, nous, on est une famille de 5 chez nous. Hein? N'importe quelle autre place dans le véhicule, c'était fini. Le premier voisin qui est venu me voir en courant, il était comme habillé en Big Bill, là, tu sais, il était peut-être en train comme de travailler derrière chez eux ou quelque chose comme ça. Il est venu me voir, puis c'est la première question qu'il m'a posée. Puis là, il m'a dit, y a-t-il un enfant dans l'auto? Puis là, ça m'a scié, là, j'ai juste comme parti en larmes. Je capotais, puis je le redis, puis j'étais encore émotive. C'est ça qui m'a fait le plus froid dans le dos, parce que la semaine d'avant, ma fille aurait été avec moi, tu sais. Elle venait juste de commencer son temps plein à garderie le 2 septembre. Fait que c'était sa place qui était le plus impactée, disons-le comme ça. Puis c'est un peu ce qui a mis sous le choc. En fait, les jeunes de l'autobus, ils ont vu le banc de bébé. J'avais un banc de bébé avec un motif de vache, fait qu'ils se voyaient comme très bien. Fait que tout le monde a eu un sentiment de panique quand il a vu le banc de bébé. Puis bien sûr, les jeunes dans l'autobus, ils n'ont pas évacué l'autobus sur le coup, là.
Il était 24 dans l'autobus, c'était des 12 à 16 ans. Ils ont tous été transportés vers divers hôpitaux, certains pour commotion, etc. Mais il y en a beaucoup pour traumatisme. Eux étaient un peu traumatisés de la scène. Ils n'ont pas eu la réponse rapidement à savoir s'il y avait plus de gens dans la voiture. Ils ont vu cette mère-là sortir, Claudia, les gens portaient assistance, mais il y avait de la poussière et tout ça. Finalement, ils ont frôlé la catastrophe, là.
Ça a frôlé le drame, là. Tu sais, il y avait un garçon qui était en train de traverser devant l'autobus aussi. Ça, je l'ai su par la suite. Lui, il a sauté dans le fossette. Il a entendu l'impact, il a faussé dans le fossette, mais il se faisait ramasser. À tous les égards, on a frôlé la catastrophe, là, mais à un haut niveau, là. Il arrivait sur son élan, c'est sûr, puis il était probablement pas attentif à la route parce que ça se peut pas. Moi, je me suis adressée à lui. Tu sais, ce que je t'ai dit là, c'est la déclaration que j'ai faite aussi à l'enquêteur. Le voisin lui a parlé, il a répondu qu'il parlait pas français. Alors moi, je me suis adressée à lui en anglais. Et je lui ai dit « There is no way, ça se peut pas que tu nous aies pas vus. Tu étais sur ton téléphone ou tu textais, c'est sûr et certain. » Fait que, tu sais, je me suis adressée à lui en anglais, dans le fond.
Pascal, ça n'a pas de sens. J'ai des émotions tellement je vis le drame avec Claudia. On a frôlé la catastrophe pour sa jeune fille qui commençait la garderie. Fait qu'imagine... Et on a frôlé la catastrophe pour l'enfant qui est devant l'autobus. Il a fallu qu'il saute dans le fossé. Une chance qu'on était avec des enfants de 12 à 16 ans, selon moi, qui a permis sûrement ce réflexe-là davantage que si on avait un petit pout de maternelle ou de première année.
C'est une bonne question. Je suis certaine, elle a dit comme je suis quasiment contente d'avoir été le véhicule entre les deux, ramasser le coup, puis qu'il n'y ait pas eu mes enfants en arrière. Ouais. Une semaine avant, c'est ça. Sa petite était là. Maintenant, elle est allée à la garderie, fait qu'elle n'était pas dans la voiture. Sinon, elle serait allée chez le vétérinaire avec. Qu'est-ce qui serait arrivé? C'est tout des qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qui serait, qui sont importants, mais d'autant plus quand on voit les accidents à longueur du Canada là, sur toutes nos routes, en fait. Puis on en parle souvent. Yannick parle souvent à Benoît Thérien de Truckstop Québec. Il se passe quelque chose en ce moment qui doit être adressé.
Ouais.
Est-ce qu'on a des conducteurs de poids lourds qui s'en vont sur les réseaux routiers avec peu ou trop peu de connaissances? Est-ce qu'on teste assez? Est-ce qu'on donne trop rapidement les permis? Et ça, c'est un des points importants de Claudia Boucher, cette victime-là qui est survivante. Et elle dit qu'il faut que ça change.
Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Il faut qu'on aille. Nos contrôleurs routiers commencent à patrouiller sur les routes. Le monde transport, il y a un mouvement là qui s'appelle Assez, c'est assez. C'est un regroupement de camionneurs justement qui milite contre les chauffeurs illégaux ou peut-être en tout cas en manque de compétences justement pour circuler sur nos routes. T'sais, c'est important quand même là, de savoir que les gens qui conduisent des poids lourds comprennent nos règles, le code de la route du Québec de un et de deux. Qui soient capables de comprendre la langue aussi, tu sais, que ce soit en français ou en anglais. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de problématiques qui sont soulevées par rapport à ça. Bien, quand on dit que ça devient un problème un peu de société, c'est que là, en ce moment, tout le monde connaît quelqu'un qui a une histoire à raconter. Tu sais. Puis c'est pas des belles histoires. Puis il y en a qui finissent pas bien. La mienne a fini bien. Mais c'est pas tout le monde. Tu sais. Fait que c'est là que ça se complique. Puis que je me dis... Aujourd'hui, je suis là, je peux en parler. Fait que c'est pour ça que j'étais contente d'avoir l'entrevue avec vous aujourd'hui. Je me dis, si je suis là pour en parler, ben, t'as qu'à y penser tout le temps. Je suis aussi bien de faire une différence, tu sais, pour essayer de voir que ça bouge au niveau ministère du Transport, gouvernement provincial, gouvernement canadien. Je sais que les règles en Ontario puis au Québec sont pas les mêmes. Fait que, tu sais, c'est de s'arrimer un peu ensemble pour que ça fonctionne, qu'on soit en sécurité. C'est pas normal que des jeunes qui attendent l'autobus ne soient plus en sécurité. Les enfants, on en a tous, ou on en connaît tous, ça nous touche plus, je pense. Fait que je me dis, si cette cause-là peut faire bouger les choses, ben je vais être contente. Puis si je peux montrer mon visage puis utiliser ma voix le plus possible pour dire, moi, je suis ici encore, mais c'est pas le cas de tout le monde.
C'est tellement important d'en jaser, puis Souvent, on va aller jaser de ces affaires-là quand il y a un drame là, clair, là, quand on a perdu quelqu'un, quand des jeunes ont été la cause, justement, d'un accident, les victimes de cet accident-là. On dirait que ça met plus de poids. Puis rarement, on donne une voix forte à ces gens-là qui sont miraculés, qui en sont finalement des victimes survivantes, parce que ben, on se dit, ben, c'est une autre chose. Mais là, on fait 1 + 1 + 1 + 1. On se rend compte qu'il y a des camionneurs ici au 88-971-1021 qui nous jasent de plein d'affaires. On voit que ça vient avec des reportages d'enquête. Il y a encore des gens qui nous écrivent en ce moment en disant que le problème est vraiment de l'Ontario, pas le Québec. La façon de faire est totalement différente. Mais tu sais, il faut se dire, c'est un enjeu de santé publique en ce moment. Pas juste au niveau du ministère, du transport, de la marchandise. Là on parle d'accidents possiblement mortels, des accidents importants. Quand on revient, il y a plusieurs années, on nous disait, regardez toujours dans votre miroir. Là. Il y a peut-être un poids lourd qui ne sera pas capable de s'immobiliser à la lumière, il n'aura pas eu le temps ou quoi que ce soit. Moi, je me rappelle, Jeff, c'est arrivé à ma mère, puis elle était bien traumatisée, mais s'il n'avait pas regardé son miroir, puis elle ne se tassait pas, c'était fini pour elle et ma sœur. Le poids lourd avait passé sa lumière rouge sur le boulevard Saint-Anne, là, à pleine vitesse, à la hauteur de l'ange gardien. Mais ça m'avait marqué qu'elle me raconte ça. Maintenant, je regarde toujours mes miroirs. Sauf que ça ne doit pas être la seule chose et la seule responsabilité dans notre cours. Il faut que ce soit une responsabilité collective, puis surtout en milieu de transport avec des poids lourds comme ça. Il faut se poser la question. C'est presque une arme, officiellement, un poids lourd. Là.
Tellement. Je salue Joe Lacouque qui écrit « Aïe, je suis encore sous le choc. Merci à la dame de son témoignage et je ne lui envoie que du bon. » Je me sens comme ça, moi aussi. Je me sens pratiquement en choc post-traumatique à l'entendre, à entendre l'émotion dans sa voix et la peur qu'elle a eue face à cet événement-là. On a également là, une autre auditrice qui nous écrit « Hey, coudonc, connais-tu également les règles en hiver? Mmh. » Donc, comment ça va se passer cet hiver? On le rappelle, c'est sorti dans les médias plusieurs écoles en Ontario qui formeraient justement des conducteurs de camions poids lourds. Trop rapidement, on les enverrait sur la route et ces gens-là n'ont pas les compétences à l'heure actuelle. Donc, ça devient des vrais dangers publics.
Benoît Thérien de Truck Stop Québec sera avec Yannick Marceau dans un Marceau Soir dans les prochains jours justement pour faire le tour de la question. Puis on a plein de commentaires, entre autres les distractions de nos jours avec les systèmes de divertissement. Il faut faire attention aux multiples accidents. Effectivement, quand tu conduis un poids lourd, c'est pire. Là, on est en enquête, on ne sait pas trop. On va savoir plus tard ce qui s'est passé, mais il faut aussi souligner des commentaires du genre « Hey, moi, je suis camionneur, il faut que je débarque plusieurs fois par semaine pour aller faire culer des camions de d'autres conducteurs qui, clairement, ne maîtrisent pas comme il faut cette conduite-là. » Allez voir aussi le Spotted Laurier Station. Il y a plein de commentaires de soutien, il y a plein de questions qui sont orientées envers cet accident-là dans le Binière la semaine dernière. Merci à Claudia Boucher qui nous a livré un témoignage important. Puis je sais que c'était pas facile, un peu encore sous le choc de tout ça.
Clairement.
Puis il y a la compagnie de camionnage, Cetex qui a été appelée par Radio-Canada. On voulait savoir si quelqu'un pouvait expliquer ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a répondu, sûrement parce qu'on est en enquête, c'est que le conducteur était en livraison dans Sainte-Croix.
Merci beaucoup à Claudia Boucher pour ce témoignage. Je rejoins Audrey, Francis et Marco par texto qui nous disent « Hey, j'ai passé proche de pleurer dans mon auto, puis c'est très questionnant ce qui se passe avec les poids lourds à l'heure actuelle. » En effet, on passe de ce pas à rejoindre Frédéric Maheu, qui est président de l'Association des travailleurs du préhospitalier à Québec. Salut Frédéric, comment ça va?
Salut, ça va bien vous autres?
Salut, ça va. Ça doit te toucher d'entendre ça.
Ouais, c'est ça. C'est bon, oui, Pascal me vole la question.
Toi aussi, tu disais ça.
Comment tu vis ça, toi, en tant qu'ambulancier sur le terrain?
Ah, écoute, ça, c'est des images. On écoute la dame, puis c'est des images d'accidents qu'on a vus. Des fois, on voit des accidents de voiture. On dit c'est sûr que les personnes sont décédées, mais... Heureusement, les voitures sont bien faites aujourd'hui. Puis des fois, mais on essaie d'expliquer la scène, puis on a beaucoup de misère à comprendre les scènes, qu'est-ce qui s'est passé à travers ça. Ça me fait penser à ce qui est arrivé, là, des accidents qui sont arrivés récemment, justement, des mères avec son petit, ou on pense au boulevard Champlain l'année passée, ou il y a 2 ans, là, je ne me rappelle plus de la date.
Les gens sont décédés, là.
Oui, les gens étaient décédés dans l'auto. Donc, c'est des images, là, on voit... c'est un peu ça, comme paramédic, on attend des histoires, puis c'est des images qui nous reviennent de d'autres histoires, mais heureusement, la dame là, est en vie aujourd'hui. Là.
Est-ce que tu en vois de plus en plus de ce type d'accident-là dans ta pratique? Ou, je sais que là, on est dans la façon de... générer un peu en manque de statistiques, mais toi, je veux dire, chaque jour, tu es dans une ambulance.
Les gros accidents, c'est de moins en moins. Donc, si je regarde, mettons, depuis 20 ans, là, j'ai moins de gros accidents, qui sont des accidents avec décès, là, de moins en moins. Mais des gros accidents, il y en a encore toujours. Heureusement, comme je l'ai dit, les voitures sont mieux faites, donc il y a moins de décès, mais On a une petite baisse. J'ai l'impression d'avoir une baisse d'accidents. Des accrochages, il y en a encore beaucoup, mais des gros accidents, j'ai l'impression qu'il y a une diminution. Mais tu sais, j'ai pas les statistiques, je fais pas tous les appels non plus. Fait que, mais il y a des gros accidents, il y en reste encore. Puis, tu sais, les distractions de cellulaire, les distractions de manger sur la route. Ça peut être une méconnaissance des règlements, puis suite, parce qu'on vient d'arriver en ville. Puis on, ça prend de quoi? Ça prend une structure pour associer à ça, pour pouvoir faire attention. Ça tue des gens, là.
Ouais, comment faites pour enlever ces images-là de votre tête quand vous arrivez sur une scène qui est terrifiante ou que vous arrivez sur une scène où il y a un accident majeur?
On les enlève pas.
Non,
Ça reste.
Vous apprenez à vivre avec?
Exact. On apprend à vivre avec. Des fois, ça peut prendre des années avant que les images nous reviennent. Des fois, on pense que tout va bien. Ça peut prendre une dizaine d'années. C'est ça qui est spécial un peu sur notre métier parce que c'est extrêmement difficile de reconnaître au niveau de la SNES parce que des fois, c'est pas rare d'avoir des chocs post-traumatiques arriver, mais 5, 10 ans par la suite.
C'est fascinant, ça.
Puis de dire, mais écoute, ça fait 5 ans que oui, j'ai vu cette intervention-là, ça allait bien, mais là, écoute, je dors plus, j'ai son image, j'ai refait un autre appel qui était semblable, mais là,
ça a ravivé.
Puis là, écoute, ça fonctionne plus. Fait que là, c'est dur de prouver. Écoute, ça fait 5 ans, 10 ans. J'ai déjà vu des cas, c'est ça, une dizaine d'années. Mais faut apprendre à vivre avec. Des fois, on va être sorti de la route. Faut apprendre, faut parler de psychologue, faut parler des médecins.
C'est ça indiscret, toi, si je te demande, Fred Maheu, un de ces épisodes-là qui t'a marqué, mais aussi tout l'aspect, comment dire, de force que tu dois redéconstruire pour t'assurer d'aller chercher les soins si t'en as besoin.
Écoute, on est chanceux où que je travaille. Nous, on a affaire avec une travailleuse sociale qui est géniale, puis qui est appelée assez souvent à la caserne. Où elle se dit, écoutez, je suis dans telle salle, si vous avez besoin de passer, venez me voir. Puis, écoute, elle est toujours loadée. Elle a toujours des gens qui vont venir. Faut parler beaucoup. Pour moi, t'sais, ça va être, mettons, de l'entraînement. Ça va être jaser beaucoup avec des amis, de leur relâcher la pression, mais d'en parler. Mais t'sais, c'est extrêmement difficile. T'sais, je regarde... Des coupes, mettons, d'urgence. Donc, il y a une personne paramédique, l'autre un soin infirmière, policier. C'est plus facile d'en jaser. Chez nous, ma conjointe est enseignante. J'irai pas discuter de toutes mes problématiques. Fait qu'il faut que je me trouve une autre histoire. Faut que j'aille parler avec des collègues de travail. Il faut que j'aille parler d'une autre façon parce que je peux pas ramener ça à la maison. Des fois, c'est trop bouleversant. Puis elle dit, ben oui, mais parle-moi de ça. Non, je peux pas. Tu comprendrais si je t'en parle, mais c'est un peu l'idée. T'sais, on entend des choses, il y a des images qui nous viennent. C'est extrêmement touchant, c'est extrêmement difficile. Mais si je t'en parle tout le temps, à un moment donné, ça marchera plus. Fait que, faut trouver ça.
On a un témoignage. Je travaille pour le ministère du Transport. J'entretiens la route et je vous avoue que sur l'avant, j'ai la chienne. Je sais très bien qu'une poignée de chauffeurs de camions ne sont pas à leur place. Frédéric, on parle justement de santé mentale suite à des événements traumatisants comme ça. Ouais. Mais là, il y a des problèmes également de relations de travail et de santé mentale justement chez les employés. Ça se passe au centre de répartition des appels 911 présentement à Québec. Peux-tu nous en parler un peu plus?
Oui, je peux vous en parler. Écoute, il y a un grief dernièrement des répartiteurs des RMU qu'on appelle suite à un climat malsain. Donc, on parle d'un directeur général qui fait de l'intimidation, qui fait du harcèlement, qui est condescendant avec les gens. On parle vraiment d'une ambiance extrêmement dégradante. Tu sais, on parle de des rencontres, on parle des gens qui sont partis en maladie suite à des rencontres avec lui parce que c'est de l'intimidation, c'est de l'arrogance.
L'intimidation dans les propos tenus, l'intimidation
dans
les propos tenus,
dans son ton, dans l'attitude également. On parle, tu sais, de dernièrement, il y a une augmentation de directeur, de cadre sur le plateau qui travaille. Donc, c'est une pression constante, c'est tout le temps pointer, de discuter, de remettre en question le comportement des autres. Et dernièrement, ils ont décidé qu'ils ont moins de budget, donc ils ont coupé des postes en plein de nuit pour créer un autre poste de direction. Ils ont doublé de direction. On parle des 5 dernières années, c'est le double de directeurs qui sont rendus.
Toi, tu trouves ça ahurissant de couper des postes pour mettre une autre direction? Tu as plus l'impression que ça, on était correct s'il faut en termes de tâches, mais qu'il manquait au contraire bien des gens au téléphone?
Les RMU étaient déjà en demande d'augmentation de
RMU, c'est ceux qui répondent.
Les répartiteurs, oui, exactement, ceux qui répondent au 911. Donc, les RMU, ce qu'ils font, c'est qu'on appelle au 911, on a besoin d'un, on appelle au 911, puis c'est quelqu'un de la 911 police qui répond. Si c'est de l'ambulance, ils transfèrent au 911 ambulance. Ces gens-là, ils ont deux travails à faire. Donc, un, c'est recevoir les appels. Donc, d'évaluer votre état de santé, qu'est-ce qui se passe, quelle adresse que vous avez, c'est quoi que vous avez, puis s'il y a des manœuvres à faire. C'est quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. Ils vont faire débuter les manœuvres. Si quelqu'un qui est une femme qui est sur le point d'accoucher,
on va former
pour faire ça. Et il y a leur collègue de travail qui est à côté, qui, eux, vont faire la gestion de la flotte ambulancière. Donc, eux, c'est ça qu'ils font. Mais là, il y a plus en plus d'appels dans la ville de Québec. Vous le dites, on le dit souvent, les paramédics, on est en surcharge de travail, mais les RMU par la bande le sont aussi. Mm-hmm. Si nous, on fait des appels, eux, ils reçoivent les appels. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Là, on coupe des postes avec une augmentation du nombre d'appels. On coupe des postes pour racheter des directeurs. C'est impensable. Ils ont bien beau dire qu'on a engagé 60 personnes. Oui, mais tes 60 personnes ne travaillent pas.
Travaille moins, c'est ça, parce que le nombre d'heures a diminué 3 000 dans dernière année, passé de 59 000 à 56 000. Il y a, dans l'article du Soleil aussi, on raconte un événement où un ambulancier pouvait plus parler avec le RMU, justement. Comment c'est arrivé? Explique-moi ça.
C'est ça qu'on dénonce. En fait, il y a deux semaines environ, un répartiteur a posé une question. Donc, vous comprendrez qu'on marche beaucoup avec un ordinateur. On reçoit nos appels sur l'ordinateur, mais on a encore les ondes radio pour se parler, pour parler.
Clairement, pour avoir des renseignements supplémentaires qui vont vous aider, vous, les ambulanciers, à faire le bon diagnostic et à poser la bonne action.
Bien, en fait, c'est pour avoir des informations sur le patient. T'sais, j'ai-tu besoin de la police pour me rentrer sécuritaire pour moi? J'ai-tu besoin? Tu sais, je peux être sur place, c'est pour ma santé et sécurité. Donc, je suis en danger, j'arrive là, finalement, la personne est en crise, il y a des couteaux, il y a des armes, je suis en danger, il veut m'attaquer.
Ouais.
J'ai besoin de la police, moi, rapidement.
Je comprends très bien.
Ou j'arrive sur une scène qui est tellement désorganisée, on arrive, mettons, sur un arrêt cardiaque, la famille est en choc, tout le monde crie, j'ai besoin d'aide pour la gestion de scène, j'ai besoin pour gérer les gens, j'ai besoin peut-être de. Pour m'aider à gérer la personne qui est en arrêt cardiaque. Donc, cette personne a posé des questions et ce même directeur-là, où il y a un grief contre lui pour intimidation, tout ça, lui a pris la grosse tête un peu et il dit, écoute, moi, là, c'est moi le boss des répartitions. S'il y a une erreur, là, mais c'est pas de vos affaires, faites une plainte, il y aura un traitement à travers ça. Puis, il y aura une rétroaction.
Mais je trouve ça difficile parce que l'erreur, là, avant tout, c'est émotif pour les gens qui la vivent. Là. Ça devrait pas être traité à la façon du papier.
Puis, les erreurs, mais qui paye les erreurs? Tu sais, malheureusement, ça arrive que les RMU peuvent faire des erreurs si c'est des humains, c'est correct. Mais les erreurs, qui paye les erreurs, mais c'est les paramédics. Ça veut dire qu'on finira pas à l'heure, on n'aura pas de pause repas. Puis, au final, celui qui paye le plus, c'est le patient. Parce qu'il n'y aura pas. Comme là, cette fois-là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils disent, écoute, moi, là, je suis ici, là, on n'est pas loin de la caserne. Puis c'est un appel qui est dans le coin de Beauport, puis je sais qu'il y a un autre véhicule dans le coin de Beauport. Comment ça, c'est pas lui qui le fait? Puis tu sais, puis c'est paramédic.
Là, on parle de délai d'attente qui aurait été plus rapide.
On parle d'environ 7 minutes de cet appel-là.
7 minutes, c'est assez pour le cours d'une vie?
Ah oui, carrément. Puis là, bien, il y a un peu d'obstination, puis cet paramédic-là, bon, il est reconnu pour s'obstiner un peu. Il déborde pas, il menace pas, mais tu sais, il est capable de prendre la parole pour dire, hey, ça n'a pas de bon sens, là. C'est un nouveau protocole, ça n'a pas de sens. Comment ça, non, c'est moi qui a cet appel? C'est pas que je veux pas faire l'appel. C'est que ça n'a pas de bon sens que c'est moi qui la fasse. Et là, mais finalement, la compagnie a reçu une lettre dans la soirée pour dire si cette personne-là reparle pour remettre en doute nos décisions, mais on y coupe le micro. Il n'y aura plus de doigts. Même s'il parle, on y répondra plus. Et là, mais comprenez, là, c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que c'est dangereux pour le patient, c'est dangereux pour son collègue ambulancier, c'est paramédic, puis ses collègues, c'est dangereux pour lui. S'il est en danger, s'il a besoin d'aide, puis on n'est pas capable de fournir, d'appeler, il dit hein, ah, mais oui, si tu es en danger, là, oui, tu pourrais répondre. Oui, mais je vais-tu vouloir répondre? Je vais-tu vouloir parler sur les ondes et dire, écoute, si je parle là, parce que j'ai besoin d'une autre équipe pour m'aider à évacuer, je vais-tu me faire réprimander? Je vais-tu me faire suspendre de mes fonctions parce que j'ai pris à peine de demander de l'aide pour que le patient puisse s'en aller à l'hôpital plus rapidement? C'est ça qui est dangereux et c'est ça qui est arrivé. Donc, le lendemain, il a pris les ondes pour dire, hey, écoute, on est en grève présentement, c'est une grève de services essentiels. Et présentement, au lieu de peser sur l'ordinateur pour dire, mais je suis en direction de l'hôpital, je suis en direction de chez le patient, on prend les ondes pour dire, hey, écoute, tel numéro de véhicule,
j'étais
en route. Oh, oui, c'est un moyen de pression. Au lieu de le pitonner, on le dit sur les ondes. Fait qu'on dit, écoute, je m'en vais là. C'est ça qu'il a dit. Écoute, hier, là, il y a une problématique avec mon GPS. J'étais pas dans le bon secteur que tu pensais. Là, je te le dis, j'étais à telle place. Comme le protocole, nos protocoles le disent à faire, c'est ça qu'il a fait. À ce moment-là, ce directeur-là a décidé que les répartiteurs ne lui parlaient plus. A coupé pendant 1h20. Fait qu'il l'a envoyé à la caserne non disponible. Donc, pendant 1h20, il a manqué une ambulance dans la ville de Québec. Parce que ce paramédic-là a dit, hey, moi, je suis arrivé à telle destination, comme nos protocoles le disent d'affaire. Fait pendant 1h20, dans une ville qui est surchargée d'appels 911, on enlève volontairement une ambulance pour. Puis, en plus d'une problématique où on fait en sorte que ça devient dangereux pour les patients et les paramédics, c'est inacceptable.
Là, la tension semble quand même haute. Là. On sent que ça va être très difficile de faire parler, mettons, direction, employés sur le terrain, puis encore là, enjeux municipaux, enjeux provinciaux là-dedans. Ça fait des années qu'on en parle. Yannick et moi, on recevait sur l'heure du midi constamment quelqu'un aussi du service ambulancier. La découverte est importante. Puis on se demandait tout le temps où est-ce que ça congestionne, pas vous au quotidien avec votre directeur, on voit là, que ça congestionne là, mais où est-ce que ça blesse, là, où le bas blesse littéralement, puis qu'on va jamais dénouer le nœud. Point d'interrogation. C'est quoi votre version, Frédéric Maheu?
Écoute, c'est toujours des décisions un peu pour... On parle d'un métier d'urgence, hein, on parle. Fait que là, on essaie de faire une gestion de chronométrie, une gestion de performance sur un système où que on peut pas faire ça. C'est un système où des gens doivent avoir un besoin de repos pour... on parle d'une histoire...
Avoir toute la tête lucide.
Avoir toute la tête lucide. On parle de l'accident de tantôt. Ouais. Tu sais, les paramédics, t'arrives là, exemple, s'il y a eu un enfant à bord, je peux pas dire, je m'en vais porter ces patients-là à l'hôpital, puis boum, je repasse sur un autre appel. J'ai besoin d'un moment pour moi pour me dire, hey, écoute, je vois-tu bien? Mon collègue, vas-tu bien? On fait-tu le topo un peu? Je décompresse un peu, puis je repars sur la route. C'est ça notre travail. On n'est pas sur une chaîne de montage pour dire, je fais une pièce après l'autre, puis j'en fasse plusieurs à la fois. Mais puis on a des acteurs qui prennent des décisions, qui vont sur ce modèle-là, de dire, ben c'est moi, c'est des questions d'orgueil, d'égo.
Réclamez-vous le départ de Sylvain Derry, qui est justement le nouveau gestionnaire au centre d'appel, je vais l'appeler comme ça, depuis le 28 janvier, qui avait fait la manchette, là, justement, pour du traitement, là, des reproches d'avoir intimidé des employés à Sainte-Brigitte-de-Laval en 2015.
Ouais, quand on fait une recherche sur lui, on voit qu'il y a plusieurs drapeaux rouges. Il a même traversé il y a quelques mois chez nous, dans notre caserne. Écoute, on veut un règlement, on veut quelque chose qui se passe pour de vrai, on veut des changements qui sont importants. C'est pas notre employeur, hein. c'est un partenaire. Fait qu'il y a du changement qu'il doit avoir, un changement de comportement, ça c'est clair, un changement de décision. Puis écoutez, on verra par la suite là, si ça va jusqu'au congédiement.
Fred, merci beaucoup. On a Daniel qui nous écrit « La population peut faire quoi contre les big boss? Moi, je supporte all the way les paramédics sur la route. Ça continue votre combat, continue d'être là pour nous. Vous êtes tellement essentiel pour la population, surtout qu'une population qui vieillit. Pour plaisir de se reparler dans des meilleures conditions. » Avec des bonnes nouvelles cette fois-ci.
Tiens-nous au courant. Puis 88-971-1021, il y a tellement de gens qui nous parlent. Ça peut se faire sous le couvert de l'anonymat. Oui. Ne vous gênez pas. Vous êtes les meilleurs pour nous parler de ce qui se passe dans vos rangs.
Courte pause. Par la suite, on parle avec notre spécialiste en conflit armé international, Éric Ouellet. On va revenir sur les voies aériennes de la Roumanie, de la Pologne, qui sont justement... Le droit n'est pas respecté. Les Russes qui passent par là pour attaquer l'Ukraine. Et on va également parler de cette visite de Marco Rubio en Israël pour porter main forte au gouvernement de Benjamin Netanyahou après cette attaque sans précédent au Qatar sur des représentants du Hamas. Vous êtes Boulevard 102.1. Vous écoutez l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Jase. Boulevard 102.1. Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Émission On en jase, ton rendez-vous du midi sur les ondes de Boulevard 102.1 de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV pour nous joindre 418-971-1021. Vous pouvez aussi nous écouter sur la web radio. On est disponible sur twitch.tv/blvd.fm. Météo, je vous le rappelle, c'est une semaine parfaite présentement à l'horizon. 23 degrés ensoleillés aujourd'hui. 25 degrés ensoleillés. Mardi, 26 degrés. Mercredi, ensoleillé. Jeudi, on est de retour à 25 degrés. On se croira à l'été. On est au mois de septembre, Spicy P.
Moi, je sais qu'il y en a qui sont encore en vacances en ce moment parce que septembre est souvent très, très beau. Il y a de la roulotte, il y a du camping au pied carré encore. Puis ça, en passant, ça ne vous empêche pas de nous écouter. Vous pouvez le faire sur l'application En rentre partout. La nouvelle application Boulevard 102.1, là, que vous soyez en road trip, au chalet, au travail, au camping, même dans le sud. Puis ça me fait rire parce qu'il y en a, Jeff, qui nous écoute en voyage puis qui nous le disent. C'est vraiment le fun de savoir que vous nous écoutez à un endroit ou à un autre. Là. C'est super simple. Tu télécharges l'application, c'est gratuit, c'est sur Apple pour les gens qui ont des iPhones, sur Android aussi. Tout est en fait. C'est disponible de n'importe quelle manière pour nous écouter en direct, ton ordinateur, ton téléphone. Puis si tu as une enceinte, là, faites attention parce que moi, l'autre jour, j'ai demandé Boulevard 102.1. Puis elle comprenait rien.
Non, c'est ça. Hein?
Non, elle a dit...
Comment faut le dire, donc?
BLVD 102.1.
Parfait.
Sur ton Google Home ou Alexa. J'ai trouvé ça bien drôle à m'amener aux États-Unis, mais c'était pas tout ce que je voulais écouter. Fait que BLVD 102.1.
On va rejoindre immédiatement au téléphone notre spécialiste en conflit armé international, Éric Ouellet. Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien. Belle journée ici aussi.
Ah, excellent. Puis annonce une belle semaine aussi chez toi en Ontario?
Oui, c'est comme Québec.
Parfait. Éric, la Russie qui a violé en pénétrant les espaces aériens de la Roumanie et également de la Pologne la semaine dernière, comment tu vois la situation?
Ben, je fais une différence entre les deux événements. D'abord, dans le cas de la Roumanie, je pense que c'était accidentel. Là. Il y en avait juste un qui a rentré là. Ça arrive de temps en temps. Cependant, pour la Pologne, c'est très clair que c'était une tentative de provocation de l'OTAN et de l'Alliance occidentale de façon générale. Donc là, on parle de quelque chose de différent.
Donald Trump parle d'augmenter les sanctions. Il dit même aux pays de l'OTAN arrêter d'acheter du pétrole en Russie. Mais est-ce que Vladimir Poutine va continuer à s'amuser comme ça tant que Trump ne déploiera pas l'armée américaine en quelque part?
Oui, en fait, on peut lier même les drones qui ont été envoyés en Pologne, là, qui sont des drones en fait plus légers, bien qu'ils peuvent transporter des explosifs, ils sont surtout utilisés comme des leurres. Donc, c'était une façon de provoquer plus de dissension entre les Européens et les Américains. Et malheureusement, M. Poutine a réussi. En effet, je pense que les Américains savent que les Européens sont déchirés sur la question de faire affaire avec la Chine, parce que c'est une autre demande qui a été faite, là, c'est de mettre des sanctions sur la Chine. Oui, en effet, la situation est difficile. Et, l'alliance est en une brisure là, dans le centre. Donc, et M. Poutine l'exploite massivement.
J'ai une question peut-être un peu plus politique parce que là, on voit justement là, cette envie-là de Vladimir Poutine de shaker un peu la cage de tout le monde puis de délimiter autre que ce qu'il avait délimité en termes de territoire où il s'en va avec ses drones et tout ça. Il y a des pays qui sont en état d'alerte en ce moment. Souvent, on jase, M. Ouellet, du fait qu'il ne faut pas nécessairement que M. Poutine ait tout. Et la façon de Donald Trump de donner à Poutine, c'est de dire on va arrêter la guerre, mais Poutine aurait gagné quand même du territoire. Puis il y a toujours cette question éthique-là de se dire ben non, parce que ça sera quoi après pour M. Poutine s'il voit que ça a fonctionné? Vous en pensez quoi, vous?
Ouais, en fait, le problème, c'est que les Américains sous l'administration Trump et les Européens ont une vision maintenant très différente des enjeux. Je pense que bon, les Européens n'ont pas changé, c'est-à-dire que faut pas que l'exemple ukrainien soit répété, comme vous avez mentionné. Cependant, l'administration Trump voit le conflit en Ukraine d'abord et avant tout comme une source de coûts et de financement pour l'Ukraine, donc qui est une attaque au trésor public américain. Et M. Trump essaie de mettre fin à ça pour cette raison-là, d'abord et avant tout, et non pas pour des raisons de morale ou de justice internationale. Et donc là, on a une fracture qui est difficile à réparer.
Éric, on change de dossier, on se transporte en Israël et au Moyen-Orient. Marco Rubio, qui était en Israël hier, il l'est toujours aujourd'hui pour soutenir Benjamin Netanyahu, qui a attaqué des bases, semble-t-il, du Hamas au Qatar, une attaque sans précédent. Est-ce que tu es surpris que les États-Unis fassent encore bon marché avec Israël après cette attaque au Qatar?
Ouais, en fait, l'attaque a surpris les Américains. Ils ont été avertis à la dernière minute par les Israéliens. La politique américaine demeure la même, c'est-à-dire que écraser le mouvement islamiste Hamas demeure une priorité. Leur soutien à Israël est indéfectible. Pour l'instant, en tout cas, on voit aucun changement. Donc, il n'y a pas de grosses surprises à ce niveau-là. Mais il faut aussi remarquer que les pays voisins dans le Golfe on pas fait des réprimandes très, très fortes contre Israël. Je pense que c'était peut-être un message général pour le Qatar de serrer la vis un petit peu plus aux gens du Hamas là, qui habitent là-bas pour les forcer à aller négocier avec Israël.
On y croit-tu vraiment, forcer les gens du Hamas?
Ben, je ne sais pas si ça va réussir, mais c'est certainement la position d'Israël. À savoir que si les dirigeants du Hamas, qui vivent d'ailleurs dans des quartiers très riches là, de Doha, la ville principale au Qatar, si ces gens-là ne sont plus négociateurs, mais des gens qui sont sur le terrain à Gaza, ça pourrait changer la donne. C'est-à-dire qu'ils pourraient être plus ouverts à une négociation réelle avec Israël que des gens qui ne vivent pas le conflit et même vivent de façon très confortable.
Les martyrs dans tout ça, les familles décimées, les gens qui ont péri, qui étaient déchirés entre ceux qui les attaquaient et les gens du Hamas qui s'en servaient comme boucliers humains, est-ce que déjà c'est rendu derrière dans le conflit parce qu'on n'a pas le temps de revoir toute la situation puis qu'il faut continuer d'aller de l'avant?
La situation est très, très difficile pour les Palestiniens parce que je pense que la plupart d'entre eux sont en mode de survie en ce moment, donc ils n'ont pas vraiment de capacité de s'organiser puis de proposer des politiques différentes au Hamas ou même de remplacer le Hamas. Donc ça, je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans le conflit, c'est d'avoir une voix palestinienne qui serait prête à négocier mais qui ne serait pas le Hamas. Et éventuellement devienne la gouvernance future de au moins Gaza. Et ça, il y a pas d'efforts qui sont faits pour organiser une gouvernance alternative qui, eux, pourraient parler au Hamas. Donc, ça manque beaucoup, mais le peuple, les gens ordinaires, là-bas, ils n'ont pas vraiment les moyens de faire ça.
Est-ce que c'est des efforts qui devraient être faits par les Américains et d'autres également alliés au Moyen-Orient? Je pense notamment, là, peut-être à l'Égypte, là, qui est un pays voisin.
Ouais, ben en fait, ce genre d'initiative-là, pour être mieux reçu par les Palestiniens, devrait être de venir de pays arabes voisins. Ça pourrait être l'Égypte, ça pourrait être la Jordanie, ça pourrait être l'Arabie Saoudite, peut-être même les Émirats Arabes Unis. Donc, il y a des pays arabes qui pourraient être beaucoup plus impliqués pour créer, aider et organiser une gouvernance alternative palestinienne. Mais on n'en a pas vu encore les débuts en ce moment.
Éric Ouellette, spécialiste de conflits internationaux armés pour nous ici à Boulevard 101. Merci beaucoup pour ton temps ce midi et au plaisir de se reparler, mais avec des meilleures nouvelles la prochaine fois.
J'espère bien, mais c'est toujours un plaisir de vous parler.
Merci beaucoup, Éric. Passe une belle semaine.
OK, au revoir.
Merci. Éric Ouellette, qui est notre spécialiste, qui est enseignant au Collège militaire royal du Canada, donc qui est notre spécialiste en conflits armés, avec qui on aime beaucoup parler parce qu'Éric est très précis dans ses réponses. Pascal, ce soir, c'est le début d'une nouvelle série de podcasts.
Oui, t'es-tu excité?
Je suis très excité parce que c'est mon premier podcast.
C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Écoute, on a comme eu une idée ici à Boulevard 101, puis on va en faire une série hors série. Ça veut dire qu'il y a plusieurs des animateurs à Boulevard 101 qui vont prendre le micro pour faire des entrevues assez longues, approfondies sur plein de variétés de sujets. Ça veut dire, si tu tripes sur quelque chose puis tu peux pas en parler en ondes, ben là, ça va être le temps. Puis tu vas triper avec les auditeurs. Fait que c'est des conversations qu'on n'a pas le temps d'avoir à la radio, qu'on amène justement dans ce genre de podcast hors série. Et ça va être à 19h. Donc, diffusion du deuxième épisode ce soir, 19h. Et là, c'est toi, Jean-François. Tu t'installes avec nul autre que...
Alicia Despins, conseillère municipale pour Québec d'abord, qui a annoncé son retrait là, de la politique municipale à Québec.
Puis il faut dire quand même merci à Chaloux, parce que là, on s'amuse qu'on a ce trip-là, parce que c'est le paradis de la bière à Québec qui a décidé de faire ça avec nous autres. C'est plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts, vous le savez, micro d'exception. La bière d'une soif parfaite. Il y a deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Sans eux, on crie pas santé en faisant ces podcasts-là. Je suis contente de t'entendre parler politique avec Alicia Despins. Elle est quand même très jeune.
Oui, très jeune. Elle arrive à la trentaine. Elle a été nommée conseillère municipale à 23 ans, élue pour la première fois. On va parler de médias sociaux, évidemment, comment qu'elle a tombé dans la politique. On parlait justement avec Hélénie tout à l'heure de haine sur les médias sociaux. Mais on va également parler d'intimidation, et c'est l'extrait que je vous ai sorti.
Je pense que je ne comprenais pas à ce moment-là non plus l'implication, parce que on avait été élu avec, si je ne me trompe pas, 18 conseillers municipaux sur 21. Fait que le fait de me nommer, ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas nommé quelqu'un d'autre. Fait que
c'est
ça,
clair.
Ça fait des jaloux, c'est certain, dans l'équipe. Il y a des gens qui sont...
Hey, voyons donc, la petite mandats. Jeune. T'as-tu vécu un peu d'intimidation à l'intérieur avec ça?
Ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu d'un élu qui a quitté l'équipe pas longtemps après, là, qui disait « Ah, toi, la petite, là... »
Puis comment t'as réagi à ça?
Bien, sur le coup, moi, j'ai pas de répartie pour ces affaires-là. Là. Je suis pas sanguine là, à relancer des affaires. Là. Fait qu'on dirait que je le prends, puis je sais pas trop quoi faire avec, puis éventuellement, je laisse ça aller. Oui. Puis,
Est-ce que tu as reparlé à cette personne-là?
Non.
Non?
Non.
Tu as dit, c'est fini, on
non,
le met de côté?
Non, c'est ça. Cette personne-là, finalement, a quitté l'équipe quelques mois plus tard, puis on n'a jamais eu à travailler ensemble. Okay. C'est pas une personne qui s'est représentée non plus, ou en tout cas, je pense pas.
Parfait.
Fait que c'est pas quelqu'un... Je pense que ça aurait été différent si ça avait été quelqu'un avec qui j'avais été en contact souvent, qu'il avait fallu que je travaille.
Ouais.
Là, j'ai pas eu à gérer ça. T'sais, c'était un commentaire qui, moi, m'ouvrait les yeux finalement sur ce que ça représentait de me nommer au comité exécutif comme impact aussi sur les autres.
Tu vois à quel point c'est tu l'écoutes, là, puis j'ai hâte d'en savoir plus tantôt dans ton podcast à 19h parce que tu vois qu'elle voulait tellement faire ce métier-là, mais l'en arrière, là, l'angle mort, là, la décourage vraiment.
Ah oui, malheureusement, elle le dit là, dans le podcast qu'elle est épuisée de la politique et c'est pas drôle parce qu'elle a seulement 30 ans. Et elle est épuisée de la politique parce que autant à l'externe qu'à l'interne, ça brasse trop.
As-tu eu le temps de parler avec elle de la question générationnelle dans tout ça?
Oui, bien sûr, on en a parlé, évidemment. Puis, tu sais, sans nommer de nom, moi, j'ai fait ma petite recherche, là, puis je suis pas mal convaincu de savoir qui lui a fait de l'intimidation. Là. Et c'était ça, là, c'était un politicien que ça faisait longtemps qu'il était en politique municipale, qui s'est vu tasser du... conseil exécutif.
Autre temps, autre mœurs. Des fois, je me dis, ah, est-ce vraiment parce que la personne est mal intentionnée ou elle a appris à faire de la politique d'une manière, puis ça ne ça donne pas le droit que ça soit encore ça en 2025, mais peut-être que ça explique parfois sans donner le droit à ce que ça se passe comme ça. Mm-hmm.
Exactement, t'as entièrement raison. Pascal, c'est déjà terminé. On a eu bien du fun. Hein?
Ouais, ça passe vite.
Ça passe très vite, 2h le midi. On refait ça demain sans faute. Merci pour ton excellente entrevue avec Claudia Boucher. C'était très émotionnel et j'ai apprécié beaucoup. C'est le retour de Gravel qui suit avec Denis, Véro et Audrey. Nous, on est de retour à midi demain. Passez une belle journée sur les ondes de Boulevard 102.1.